Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Sport, le MAG, François Triot.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre si vous êtes avec nous en direct sur Sud Radio, peut-être sur également sudradio.fr pour nous voir en vidéo et ça vaut le détour, croyez-moi. Et puis également pour voir nos consultants, Daniel Herrero sera avec nous dans quelques instants et nous accueillons autour de la table Sud Radio, outre Julien Thomas qui est avec nous depuis 17h maintenant, Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, Philippe. Et puis, bien sûr, notre envoyé spécial au Stade de France, Alexandre Priam. Bonsoir,
salut
Alexandre.
Salut tout le monde.
Voilà, ça va.
Salut.
Est-ce que ça va très bien. La température est bonne ou pas au Stade de France? C'est important, hein, ça va nous...
C'est frisqué. Ah. C'est un peu frisqué. Pour être honnête, c'est un petit peu frisqué au Stade de France actuellement. Et juste pour vous dire, pour l'instant, il n'y a pas un chat. Vraiment, il n'y a absolument personne.
C'est vous
personne.
Qui avez ouvert le stade tout à l'heure.
Ben oui, j'ai ouvert le stade, j'ai le trousseau de clés à côté de moi. Et les portes ne sont pas encore ouvertes, c'est pour ça qu'il n'y a absolument personne. On est tout seul dans un Stade de France absolument vide. Il ne sera pas complètement rempli ce soir, a priori, le Stade de France. On n'atteindra pas les 80 000 personnes.
Eh bien voilà, on va quand même récapituler. Bien sûr, Alexandre est avec nous et vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose. On rappelle que ce match va débuter dans 2 heures, hein, entre la France et l'Argentine. On rappelle quand même les résultats de cette journée de Top 14 et notamment de ce match qui vous a fait, je pense, tous vibrer entre Brive et le Racing 92, Rémi. Rappelons ce score, parce qu'il y a eu un essai, ça c'est l'information.
C'est important, oui. 12 à 10 en faveur de Brive dans ce match à un essai après la sirène, hein, signée de la part du Racing 92 et de son remplaçant Antim Emery. Victoire donc de Brive. Un peu plus tôt, Toulouse l'a emporté face à Perpignan 35 à 15 avec le bonus offensif. Bonus offensif également pour le Stade français, mais qui a perdu 27 à 31 à domicile face à Montpellier, et donc bonus défensif également pour les Parisiens. Succès de Lyon 30 à 23 face à Castres et de Pau 33 à 21 face à Biarritz. Au classement, Toulouse du coup reprend la tête du top 14 avec 3 points d'avance sur Bordeaux-Bègles, battu hier à La Rochelle. Montpellier et Lyon sont à égalité à la 3ème place avec 26 points, devant le Racing 24. Et puis en bas de tableau, on retrouve Perpignan et Biarritz avec 14 points tous les deux, 13ème et 14ème.
On va revenir bien sûr sur ces résultats de cette 10e journée de Top 14, week-end de doublons. Peut-être avec vous, Philippe Spanghero, un mot, il faut qu'il soit rapide, hein, parce que mais sur Brive Racing 92, ce match 12-10.
Oh ben, y a pas grand-chose à en dire. Comme tu l'as dit, on a vu un essai dans les arrêts de jeu pour nous régaler. Mais bon, un match solide du CAB. Et puis, une grande stérilité du côté du Racing, notamment en deuxième période.
Voilà, moi j'ajouterais, mais peut-être que Julien, vous avez d'autres choses à ajouter. Moi j'ajouterais quand même qu'on a vu des nouveaux visages. Ça, c'est le côté positif de ce match. Notamment, on le connaît, mais on l'a vu à l'œuvre pendant une bonne partie du match du côté briviste, Esteban Abadi, troisième ligne, voilà, qui s'est mis un peu en évidence. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Julien Thomas?
Ben le match quand même, l'énergie de ces brivistes, et on le disait en avant-match, c'est surtout quand on va là-bas à Ménédoménec, c'est toujours compliqué. Il faut mettre d'abord les bases de notre rugby, l'engagement, les phases statiques, la mêlée, la touche, être performant dans ces zones de ruck, et ils ont montré, les brivistes, que là-dessus ils étaient impériaux. Et c'est vrai que vraiment ils ont mis une énergie. Je pensais que peut-être ils allaient flancher dans la seconde mi-temps, et puis ils ont tenu le coup. Par contre, j'ai l'impression d'avoir vu un Racing comme on a commenté avec sur Sud Radio avec Alexandre Priam, Bordeaux, La Rochelle-Bordeaux, j'ai l'impression d'avoir vu des Bordelais comme hier, côté Racing. Même.
Oui, un petit peu apathique, voilà, malgré
exactement.
Tout. Voilà, mais ils sont sympathiques, voilà, pour faire un mot facile. voilà, mais il faut un peu de légèreté aussi en cette soirée de Top 14 et de doublons. La bonne nouvelle, elle est pour le Stade toulousain qui a repris la première place du Top 14. Les Toulousains l'ont emporté 37 à 15. Ils étaient dos à dos face aux Catalans de Perpignan à la mi-temps, 15 partout. On va écouter Sofiane Guitoun, le trois-quarts centre qui est un des revenants dans cette équipe après une longue blessure et qui était satisfait du premier bloc de son équipe, puisqu'on le rappelle, le Stade toulousain est invaincu, hein, 5 matchs, 5 victoires à domicile en ce début de saison, le double champion en titre, champion de France et champion d'Europe, au micro de Rémi Mességuet.
Ouais, c'est sûr qu'on s'était fixé des objectifs un début de saison. Et je pense que voilà, sur 10 matchs, on en gagne 8. On en perd 2. Et la semaine dernière, je pense que s'il n'y a pas un petit trou d'air de 10-15 minutes, il y a possibilité de l'emporter. Donc c'est sûr que les comptes sont bons. Il y a une voie de progression, il y a toujours des choses à améliorer. Là, ce qu'on a fait sur ces deux premiers mois de championnat, c'est très bien.
Ouais, victoire bonifiée, Philippe Spanghero, pour le Stade Toulousain aujourd'hui. On sait quand même qu'il y a combien d'internationaux ? 11, hein, je crois, qui ne sont pas là côté Toulousain. C'est beaucoup. Et pourtant, on a l'impression quand même que, bon, même si parfois ça a un peu, c'était un peu rouillé de temps en temps en première mi-temps, mais enfin, grâce à la bonne opposition de Perpignan, cette équipe du Stade Toulousain, elle est vraiment au-dessus.
Ouais, elle est au-dessus. Puis en fait, ces premières mi-temps, elles sont symptomatiques au Stade Toulousain, même avec la présence des internationaux. On l'a vu depuis le début de saison. Le Stade Toulousain chahuté souvent en première période contre Clermont, contre Toulon, contre Pau, mais toujours cette capacité en deuxième mi-temps à renverser les situations et à reprendre la main assez largement. Et donc, ça permet au Stade de, malgré les sept périodes de doublons toujours compliquées à appréhender pour eux, de garder la première place du championnat.
Ouais, elle avait pas mal de joueurs en moins, on le disait. Voilà, il y a eu ce bonus offensif arraché à la dernière minute par Arthur Bonneval. Julien Thomas, que retenir de ce succès ?
Et le succès, c'est surtout que ça a été préparé. C'est vrai que les années précédentes, le Stade Toulousain, parfois dans la période internationale, prenait des piquettes ou alors était un peu dans le creux de la vague à ce moment-là parce qu'il manquait tous les internationaux. Sauf que là, maintenant, la philosophie, c'est que il y a des missions pour chaque quasi-joueur et qu'ils savent qu'à telle période, ils vont être titulaires ou vraiment être impliqués pendant une période de un mois et demi et que du coup, ils se préparent en fonction avec les préparateurs physiques qui sont missionnés pour ce moment-là, alors qu'avant c'était par rapport aux internationaux, ils ont fait le plein de points mathématiquement au classement. Et là, ça prouve qu'avec ce 37-15 face à Perpignan, malgré une première mi-temps quand même, bon voilà, comme le Stade Toulousain le montre chaque week-end, quand il n'y a pas les internationaux, mais de faire le boulot, quoi. Donc ils préparent et c'est ça l'avenir. Je pense qu'ils savent que maintenant c'est comme ça et en plus c'est avec des mecs du club, donc c'est encore mieux.
Ouais, impressionnante en tout cas cette équipe du Stade Toulousain, donc qui termine ce premier bloc leader avec 36 points devant Bordeaux-Bègles 33, comme le disait fort bien Rémi Dos Santos. Deuxième résultat peut-être que vous voulez mettre en avant, Philippe Spanghero, c'est quoi ? C'est la victoire de Montpellier au Stade Français peut-être ?
Oui, parce que je l'avais pronostiqué et je
reste collé. Oh là là, oh là, là.
Tout en humilité,
c'est quand même une information importante. Et non, plus sérieusement, parce que elle est, je crois, révélatrice de ce nouveau visage du MHR sur sa lancée depuis le début de saison. Ce collectif, on a l'impression retrouvé par rapport à ce qu'on a pu connaître les saisons dernières. C'était vraiment dans la douleur du côté du MHR. On était toujours très loin dans la production par rapport à ce qu'on devait attendre à la vue de l'effectif. Et là, cette année, on sent une cohésion dans ce groupe, on sent une volonté de produire du jeu, encore une fois, contrairement à la pauvreté en termes de production qu'on a connue les saisons dernières. Et puis, il y a du caractère et un collectif fort, capable d'aller renverser des situations, parce que ce match au Stade Français, il était mal embarqué aujourd'hui. Et puis ils ont repris la main dans les 20 dernières minutes pour aller chercher une victoire en fin de match avec caractère et qui leur permet de rester collés en haut du tableau.
Ouais, un essai, 7 pénalités, un essai signé Julien Tisseron. Ce qui est intéressant, c'est à la 66e, ce qui est intéressant peut-être Julien Thomas, c'est la capacité des Montpelliérains à bien finir les matchs. On se souvient, déplacement à Bordeaux, où ils avaient bousculé les Bordelais en deuxième mi-temps alors que les autres avaient pris le large en première mi-temps.
Il fallait pas 5 minutes de plus.
Ouais, tout à fait, ouais. Et ça fait plusieurs matchs qu'on voit ça. Ça, c'est un signe de bonne santé, on va dire, physique déjà, mais aussi psychologique. On sent qu'il y a quelque chose de différent dans cette équipe.
Mais qui tiennent surtout la cadence mentalement pendant 80 minutes, qui ne lâchent pas, même s'il y a un score qui commence un peu à se décanter pour l'équipe adverse, mais ils sont toujours mentalement prêts à donner des assauts offensifs. Mais ce qui a fait la différence, je pense, côté Montpellierain, mais ça n'est pas peut-être représentatif parce qu'ils ont pris 4 essais par le Stade Français tout de même. mais c'est qu'il y a quand même une belle défense, je trouve, depuis un moment, qui est agressive, qui permet ses turnovers et puis qui permet de maîtriser après offensivement le ballon et surtout la discipline. C'est une équipe qui est disciplinée, alors que les saisons précédentes, c'était carton sur carton jaune. Ça faisait presque 15 de moyenne de pénalité par match. Et là, en fait, même si elle subit des assauts des équipes adverses, elle reste dans le match par la discipline et se sert justement de l'indiscipline qu'a eu le Stade français, parce que c'est comme ça qu'ils sont restés collés au score par rapport au Stade français et que dès qu'ils ont eu l'occasion de les sanctionner, ils l'ont fait, et c'est remarquable du côté des Montpellierains.
Oui, remarquable effectivement encore. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent la victoire de Brive face au Racing, c'est l'un des derniers résultats, 12-10. Voilà, on rappelle également le succès difficile de Pau face à Biarritz, Philippe Spanghero. Hein.
Ouais, Pau s'est fait peur à domicile. Là, c'est vrai qu'ils ont bien démarré cette saison à domicile par rapport à la saison dernière où ils avaient pêché en laissant, je crois, 4 ou 5 fois la victoire à domicile. Là, en début de saison, ils étaient plutôt bien sur leur base. Et là, ils se sont fait peur face à une très belle équipe de Biarritz qui a joué le match parfait à l'extérieur avec beaucoup d'ambition en termes de volume de jeu, avec un magnifique essai de 100 mètres qui démontrait toute la qualité offensive du BO. Mais encore une fois, avec du caractère, la section a réussi à revenir dans ce match, à recoller pour arracher une victoire importante. Parce que mine de rien, on voit que les équipes, notamment les promus, se bagarrent et malgré la défaite de Perpignan aujourd'hui, restent collés et tiennent la cadence par rapport au gros. Et donc, il ne faut pas craquer en bas de tableau et Pau avait besoin de cette victoire aujourd'hui.
Ouais, belle victoire, donc 33-21 avec encore Antoine Astoy qui a été décisif. Voilà, quasiment je crois 100% au pied et puis un essai à la 75e minute. Voilà, Astoy il fait
23 points pour être précis.
Ouais, 23 points, c'est bien, il faut être précis. Antoine Mazer, merci pour cette intervention.
Tout à fait.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même il fait ses allers-retours avec Marcoussi, mais il pèse quand même quand il revient dans son club et c'est important.
Oui, cette victoire, c'est presque un hold-up hein, quand même pour Pau, parce que la possession a été à l'avantage des Biarrois, hein, 54-46. Même dans l'occupation, il y a eu aussi un plus gros déchet au niveau du plaquage chez les Palois. Donc, ils s'en sortent très très bien sur ce match, et notamment grâce à Antoine Astoy, leur maître à jouer.
Oui, je suis d'accord, mais combien de matchs la saison dernière aussi, ils ont eu comme cela, des à la 76, 77e, 80e, gagner des matchs par leur activité, par leur fougue de jeunesse qu'ils ont et leur cohésion, parce que c'est des jeunes que j'ai connus à Pau et qui maintenant sont titulaires et qui en fait sont tous du Béarn, et donc en fait, ils sont, voilà, ils peuvent pas, ils relancent tout. Après, ils tentent tout et ça paye. Et c'est vraiment les Astoy, les Spioc, le Bail, la Mêlée, tout, voilà, c'est des gamins de là-bas. Donc, je pense que même l'année dernière, il y avait des matchs comme cela et qu'ils arrivaient à faire tourner dans les 5 dernières minutes.
Ouais, mais Julien, regarde, Biarritz aujourd'hui, c'est 18 fautes sur ce match à Pau. 18 fautes. Comment gagner un match en faisant 18 fautes?
Ah, ben ça, c'est impossible.
En marquant plus de points que son adversaire. Ça, c'est une méthode. Hein, mais,
oui,
mais
ça marche, paraît-il.
Mais si tu fais des fautes, c'est que
je sais même pas, parce que le Stade français marque 4 essais et perd face à Montpellier. Donc, marquer.
C'est contre La Rochelle qui a la stade de 900 mètres ballon.
Oui, alors ça, par contre, non merci. Hein.
T'étais pas obligé. Important de parler des vrais sujets.
Pas disserter sur les stats parce qu'on a bien mieux à faire, même si on adore les stats sur Sud Radio, mais pas que. Et on va se retrouver dans un instant, mais justement pour aller au Stade de France, retrouver Alexandre Priam pour faire aussi le tour de l'actualité avec Julien Thomas et Philippe Spanghero, avec vous les auditeurs, au 0826 300 300.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Sport, le MAG, François Triot.
Avec vous les auditeurs Sud Radio, 0826 300 300. France-Argentine, c'est dans un peu moins de 2 heures, dans 1h40 très exactement. On sera bien sûr au Stade de France. On va aller prendre un petit peu la température du côté de Saint-Denis avec Alexandre Priam. Voilà, parce que vous étiez tout seul tout à l'heure, vous aviez les clés du stade. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de monde maintenant?
Ah bah comme vous le voyez hein, sur le site Sud Radio, sur Twitch, voilà, sur l'application, on est en vidéo.
En Facebook,
et
là,
en Facebook Live aussi. Voilà, on vous montre un peu les travées du Stade de France pour le moment. Ça commence tout doucement à se remplir, hein, mais bon, on n'est pas sur une affluence démesurée pour le moment, ni sur une animation dingue. Hein. Faut le dire, ça nous a un petit peu étonné. J'en discutais avec quelques collègues journalistes. Il y a très très peu d'animation. On n'a pas l'impression de vivre un grand match ce soir, alors que pourtant c'est le retour du public et ça devrait être fêté comme tel. Pour l'instant, alors c'est vrai, on est encore à près de 2 heures du coup d'envoi, mais on est sur une ambiance très feutrée, pas la sensation d'arriver dans un grand événement, et pourtant ce sera un grand événement ce soir face à l'Argentine, mais ambiance un peu particulière pour le moment, François.
Oui, et ambiance particulière, il y en aura ce soir, hein, même 55 000 personnes au Stade de France. Ça va faire du bruit, en tout cas, ça sonnera beaucoup moins creux qu'il y a un an. Hein, oui. Souvenez-vous, on a vécu ces rendez-vous où ça sonnait creux, où l'équipe de France, effectivement, avait joué ses tests au Stade de France dans un stade vide, avant ensuite d'aller disputer la finale à Twickenham. On s'en souvient dans cette Coupe d'automne des Nations. On va passer au tour de l'actualité. Bien sûr, peut-être rappeler 2-3 résultats ou pas avec vous, Quentin Cabanis.
Mais moi, je fais tout ce que vous voulez, François.
Mais bien sûr, mais c'est ça. Mais merci.
De sympathique.
Très bien, c'est bien. Alors, on va passer justement au truc parce que à l'actualité sportive, parce qu'il y avait un peu de Ligue 1 aujourd'hui, notamment du foot avec un Lille-Angers. Bah, qui s'est terminé sur
un match
sur
nul.
Ah ouais.
Sur un match nul, un partout entre Lille et Angers. C'était le deuxième match de cette 13e journée de Ligue 1 qui avait débuté hier avec une victoire de Lens 4-0 face à 3. On espère autant de spectacle ce soir à 21h du côté de Bordeaux avec une belle affiche de Ligue 1, Bordeaux-Paris-Saint-Germain. Il y avait également de la Ligue 2 cet après-midi avec Sochaux qui s'est incliné à domicile face à Nîmes 1-0 et Auxerre qui a battu Pau. Auxerre qui s'est imposé 4-1 face à Pau. François, il y avait également un énorme match en Angleterre avec Manchester United qui jouait contre Manchester City et ce sont les joueurs de City qui se sont imposés 2-0. Un mot également de tennis avec des rencontres comptant pour les demi-finales du Masters de Paris aujourd'hui. Novak Djokovic s'est imposé face à Orkaz en 3-7. Il a perdu le premier set 6-3 puis s'est imposé 6-0 7-6. Medvedev s'est également imposé en demi-finale à Paris. C'était face à Zverev en 2-7 gagnant 6-2 6-2 avec la victoire de Djokovic. Un petit record qui tombe, un énorme record même, puisque c'est la 7e fois que Novak Djokovic est assuré de finir la saison numéro 1 mondial en tennis. Et puis pour finir, un mot de MotoGP puisque c'est important de célébrer le titre de champion du monde de Fabio Quartararo. On le sait depuis plusieurs courses déjà que le Français est champion du monde. Cette fois, c'est le Grand Prix du Portugal qui aura lieu ce week-end. Il y avait les qualifications aujourd'hui et le Français a terminé 7e. C'est le Grand Prix d'Algarve au Portugal, voilà, qui aura lieu demain.
Ah bon, c'est tout grâce à Quentin Cabanis, l'actualité bien sûr sportive sur Sud Radio que nous suivons. Tiens, on parlera de voile dans un instant avec vous aussi, Quentin,
oui,
bien sûr. Et puis on fait le tour de l'actualité avec nos consultants, Philippe Swanguero, Julien Thomas. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, Julien, dans l'actualité cette semaine ?
Alors, je voulais mettre à l'avant la grosse performance d'un Français, un boxeur, en fait, toulousain, peut-être que Philippe peut connaître, dans la catégorie de boxe amateur, moins de 60 kilos, qui a été double champion maintenant du monde, des poids légers, amateur, et c'est le premier Français à le réaliser. Donc, il a battu l'Ouzbek, qui avait été champion du monde en 2018, de 21 ans, qui a été au JO, bien sûr, vainqueur aussi de la jeunesse, et en gagnant ce deuxième titre mondial. Et voilà, c'est une première dans la boxe française. Donc
Sofia Noumia.
C'est Sofia Noumia qui a 26 ans, toulousain, et parfois on n'en parle pas assez de ces clubs, que ce soit dans le sport collectif ou des boxeurs encore plus, parce que c'est une discipline quand même qui marque amateur, et je voulais le relever parce que c'est apparemment dans le monde de la boxe le premier Français qui est double champion du monde amateur.
Voilà, ben c'est un,
voilà.
C'est
donc, mais c'est, pour lui rendre un petit hommage.
Et ben c'était un bel hommage en tout cas pour votre tour de l'actualité. Le tour de table se poursuit. Philippe Spanguero, vous voulez parler quoi de Zidane au Paris Saint-Germain?
Oui, c'est une information qu'on a vue dans la presse, un filet dans la presse cette semaine, disant que Zidane avait été aperçu dans un hôtel parisien. Alors la rumeur a enflé. Hein. Et en fait, j'ai parlé de ça il y a quelques mois avec une dame avec qui je travaille qui s'appelle Sabine Calégari, qui a écrit un très très chouette bouquin qui s'appelle Dans la tête de Zidane, qui a analysé, c'est une psychanalyste qui a analysé toute la carrière de Zidane à travers une approche psychanalytique du sujet. Et donc, elle était persuadée depuis des mois que Zidane rejoindrait rapidement le PSG. Et quand j'ai lu cette nouvelle cette semaine, enfin, cette brève, ça m'a fait sourire parce que je trouve que le PSG a un vrai problème de leadership. C'est-à-dire que ça fait partie de ces grands clubs qui ont de très grands joueurs, dans lequel on sent que les joueurs ont le pouvoir en lien avec la direction et que les entraîneurs n'arrivent pas à mettre leurs pattes dans ce groupe et à faire ce qu'ils veulent. Parce que quand sans maîtriser le foot comme le rugby, mais quand on voit un coach comme Tourelle qui en partant du PSG a tout de suite des résultats ailleurs, je pense qu'au PSG le problème c'est le leadership. Et je trouve que le timing est bon après le départ de Zidane au Real, et que ce serait un magnifique défi pour une immense carrière comme celle de Zidane de rebondir au PSG. Voilà. Donc ouais, en quelques...
Un Marseillais à Paris, ça peut effectivement faire les gros titres.
Ouais, c'est vrai.
Est-il plus Marseillais ou Bordelais, François?
Voilà, non, mais à Bordeaux, il a une place à part, mais enfin, il est quand même Marseillais, Zidane. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant et on retiendra cette date.
Même, on peut éventuellement prendre quelques paris pour les mois qui arrivent. Ou...
Sinon, Zidane ne peut pas être un week-end tranquille sur Paris.
Ouais, voilà, parce que c'est ce que j'allais dire, Julien. On a vu Alexandre Priam à l'Ibis de Castelnaudary et Julien Thomas. C'est pas pour ça qu'ils vont aller entraîner le club. Je veux dire,
c'est ça.
Pourtant, il a fait le test des buteurs là-bas. Pourtant, on a montré du rugby. Hein.
Il était avec deux dirigeants du PSG quand même.
Oui, il peut
boire un café à titre amical, mais bon.
Et ça peut être à tout moment aussi une réunion pour la Coupe du Monde du Qatar, dont il est l'ambassadeur. Hein.
Ouais, bon, enfin bon, bref. Mais
en tous les cas, messieurs,
on suivra ça.
Je mets une pièce sur Zidane au PSG.
Mais tu sais qu'à cause de toi, du coup, ça va pas se passer. Parce que
si tu mets des pièces, Philippe, moi je te suis, je t'ai le monté souvent.
On accueille dans le studio Sud Radio Olivier Magne, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous pour vivre cette grande soirée France-Argentine tout à l'heure. Salut Olivier.
Salut à tous.
Ouais, voilà, on va parler bien sûr de rugby dans un instant. Moi j'avais juste un
peu. Il est partout.
Il était chez nos amis de l'équipe télé pour parler un peu de rugby international et des Anglais. On va y revenir avec lui dans une seconde. Moi je voulais juste parler quand même de la folle semaine d'Hugo Gaston dans mon tour de l'actualité, parce que ça dépasse, je pense, ce qui s'est passé à Bercy, ça dépasse le cadre même du tennis et du tennis français. Ce qui était intéressant, j'ai trouvé, parce que, en plus j'ai vu ce match contre Alcaraz, on voit un joueur qui a d'autres qualités et qui essaye de développer, comme Antoine Dupont en rugby, comme dans certains sports aussi en foot, Messi, on voit un joueur qui essaye de jouer différemment et qui pose des problèmes justement à ses adversaires. Et c'était un beau moment de sport, cette folle semaine qui va lui permettre quand même de gagner 40 places au classement ATP et donc changer quand même sa carrière, parce que quand on est dans les 60, on rentre direct dans les tournois du Grand Chelem au premier tour, et financièrement ça change la donne pour un joueur de ce calibre. Et si ça se trouve, il sera plus à l'aise face à des joueurs meilleurs que ceux qu'il affronte dans les Challengers, et il va peut-être aussi démarrer sa carrière, donc en tout cas avoir un nouveau départ à 21 ans. Hugo Gaston, que l'on a vu cette semaine et qui a fait vraiment fléchir Medvedev, qui s'est qualifié aujourd'hui pour la finale. On va tourner peut-être, oui Quentin, ben oui, parce qu'il est 19h28 et que nous on est à l'heure sur Sud Radio. À tout de suite.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Sport, le mag, François Trio.
Le MAG, avec vous les auditeurs, 0826-300-300. Bien sûr, vous nous suivez, sur votre autoradio, si vous êtes en voiture, mais aussi sur votre smartphone.
Sur YouTube, Twitter, Radio, sur Facebook.
Sur sudradio.fr surtout, voilà, parce que là, on peut voir, toute la famille Sud Radio.
Et il y en a un qui vient d'arriver au stade.
Oui, il y a Daniel qui est en train d'arriver avec Alexandre. Olivier Magne est dans le studio, Philippe Spanguero est là, Julien Thomas également. Bref, toute la famille Sud Radio est réunie, bien sûr. Et puis, on va essayer un peu de prendre l'air avec vous, Quentin Cabanis, parce que vous aimez nous parler de voile. Vous êtes un peu...
un aventurier,
voilà. Tout à fait, l'aventurier des ondes, Quentin. Allez-y, cap au
Capitaine,
sud.
Capitaine, que faites-vous?
Je vais tout simplement larguer les amarres, mon jeune ami.
Il a déjà viré de bord.
Rien n'est gratuit sur Waterworld.
1000 tonnerres de Brest.
Alors, J-1 avant le départ de la Transat Jacques Vabre, départ du Havre demain, direction la Martinique. Alors hier, on a zoomé sur la catégorie star de la course, les Imoca, avec notamment Charlie Dalin, grand favori de cette édition une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux géants des mers, la catégorie qui va avoir le parcours le plus long, ce sont les ultimes. Alors les ultimes, c'est quoi? Eh ben, c'est des trimarans de 32 mètres de long par 23 de large. Là, pour info, ils sont au Havre, juste à côté du port, ils sont à côté d'un immeuble, et ben, ils sont aussi grand que l'immeuble, c'est assez impressionnant. Alors pour eux, donc, départ du Havre et arrivée en Martinique comme les autres, mais ils vont devoir passer par le Cap-Vert et descendre jusqu'à l'archipel Trinidad et Martin Vaz. Ils vont notamment traverser le poteau noir, c'est la difficulté de cette course. Alors dans cette catégorie, on va retrouver 5 monstres des mers au départ. Actuel Ultime 3 avec Yves Le Blévec et Anthony Marchand. Banque Populaire 6 avec Armel Lecléac et Kevin Escoffier. Sodebo Ultime 3 avec un nom qui parlera aux amateurs et aux fans de rugby, Thomas Coville, et on va retrouver également Thomas Roussel à ses côtés. Il y aura sur SVR Lazartigue, le skipper François Gabart et Tom Laperche, que des noms qu'on connaît hein, dans le monde de la voile. Et puis enfin, le duo favori, c'est le duo Franck Camas et Charles Caudrelier. Ils prendront le départ à bord de Maxi Edmond de Rothschild. C'est le duo qui gagne quasiment tout depuis 2019 et ils sont favoris. Ils sont favoris aux yeux évidemment de tous les fans de voile et également auprès de leurs adversaires. C'est la question qu'on leur a posée et notamment à Charles Caudrelier.
D'autres concurrents, on est les favoris, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'en face de nous, il y a des nouveaux bateaux qui vont être très performants, et puis des marins très, très, très bons, mais on est le favori logique, parce qu'on a, bah, on a tout gagné avec le Maxi de Rothschild depuis 3 ans, on a gagné aussi une course en double ensemble il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, donc c'est difficile de savoir qui va s'en tirer le mieux, parce qu'il y a des nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas, et puis on ne connaît que les marins, on sait qu'ils sont bons, et on sait que ça va être beaucoup plus dur que ça n'a été par le passé, parce qu'il y a 5 bateaux avec le même potentiel et des très bons marins à bord. Donc voilà, mais on a l'étiquette sur le papier, mais ça ne nous met pas plus de pression que ça.
Allez, Charles Caudrelier qu'on vient d'écouter, qui a déjà remporté 2 fois la Transat Jacques Vabre, et il est aux côtés de Franck Camas, c'est évidemment les grands favoris. Franck Camas, c'est une légende de la voile, et les ultimes, comme les autres bateaux, ils partiront demain. Allez, c'est dans moins de 24 heures maintenant le départ de cette course. Au programme pour les ultimes, 7 500 marins au programme pour nos 5 équipages, et on connaîtra le duo gagnant d'ici un petit peu plus de 2 semaines. C'est le temps qu'il devrait mettre, environ entre 14 et 17 jours, c'est le temps qu'il devrait mettre pour faire la traversée en passant par le large du Brésil, donc ça va aller très très vite. C'est des bateaux qui peuvent faire des pointes à 85 km/h. François, sur l'eau, ouais, c'est impressionnant.
Enfin, nous, on est d'accord que notre chouchou, c'est Charlie Dalin.
Charlie Dalin, mais c'est pas la même catégorie. Charlie Dalin, on en a parlé hier, et il est évidemment favori puisque c'est le tenant du titre. Il a changé de coéquipier, mais on l'attend une nouvelle fois, et pour les autres, c'est aussi un des favoris.
Eh bien voilà, merci Quentin Cabanis. Cap au Sud, bien sûr, on suit l'actualité voile. On va parler bien sûr de ce France-Argentine avec Olivier Magne, avec toute l'équipe Sud Radio et avec
Daniel
aussi.
Qui vient d'arriver.
Et Daniel Herrero qui est là. Salut Daniel.
On salue tout le monde avec affection, évidemment. Je vous trouve en bonne forme. Rien qu'en vous regardant, on a la sensation qu'on est à quelques minutes d'un bel événement.
Voilà. Ah ben, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Le stade qui se remplit ou pas, Alexandre?
Ouais, ça commence doucement. Mais pas d'effervescence, hein, Daniel. Hein. Ouais. On est encore loin du coup d'envoi, mais.
Bon, enfin, on annonce quand même 55 000, peut-être 60 000 personnes. Le stade, pour l'instant, est encore tranquillou. On dira les abords du stade sont assez pétillants. La bière coule, non pas radicalement à flot, mais elle commence à couler. Effectivement, ça fait quand même maintenant presque 18 mois ou quasiment 2 ans qu'elle n'a pas du tout coulé dans ce périmètre. En d'autres termes, juste pour signifier qu'une petite effervescence joyeuse semble naître à une heure et demie du grand match.
Oui, de l'effervescence aussi, on va en parler pour la Pro D2. On fait toujours un petit point vers 19h30 hein, sur Sud Radio dans le mag sur la Pro D2. On en reparle dans un instant. On en reparle avec Pépito et Lorga, notre invité Sud Radio. Bonsoir Pépito.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Voilà, vous êtes aujourd'hui impliqué dans le club d'Agen, Pépito, vous ancien joueur d'Agen notamment, ancien joueur surtout du 15 de France. Voilà, c'est l'un des faits marquants hein, du week-end de Pro D2, c'est la victoire large d'Agen face à Montauban, c'était jeudi soir. Mais j'imagine que depuis, il y a un peu de relâchement quand même du côté d'Armandie.
Oui, c'est effectivement, hein, c'est une victoire qui fait énormément de bien parce que bon, on a quand même une équipe de de Montauban qui voilà qui évolue dans les six premiers. Donc on s'attendait à un gros gros match de la part des Montalbanais et les joueurs d'Agen ont su relever le défi. Ça fait quelques temps maintenant que c'est compliqué du côté de d'Armandie. Et je pense que sur ce match les joueurs ont répondu présent avec avec la manière en plus. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau que de prendre ces 5 points face à cette équipe de Montauban. Effectivement, on a décompressé un petit peu après le match. On a,
vous avez fait la fête ou pas?
On a soufflé un peu, bien sûr, évidemment. Oui, oui, on a fêté quand même ça. Et tout en sachant que voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. On est sorti de cette zone rouge et voilà, maintenant l'objectif ça va être de ne plus y retourner.
Agen 13e hein, désormais avec deux victoires en 10 matchs, mais qui respire. Olivier Magne, je vous présente pas avec Pépito Elorga, non vous...
Salut Pépito.
salut.
Voilà. Bon alors on va pas s'enflammer parce que quand même il y a 10 matchs qui sont passés et même s'il en faut quoi 29 en, ou 30 en Pro D2, il faut quand même, c'est peut-être une nouvelle saison qui démarre ou pas?
Oui, en tout cas, on l'espère pour eux. Et c'est vrai que de retrouver le chemin de la victoire, qui plus est avec une victoire bonifiée contre Montauban, des joueurs qui retrouvent du plaisir, bah voilà, c'est véritablement la saison qui démarre pour eux. Après, une équipe comme Agen, je veux pas croire que bah, d'ici la fin de la saison, même d'ici la fin de l'année, elle va gagner d'autres matchs parce que c'est une équipe qui a quand même un potentiel humain intéressant avec des joueurs quand même qui ont qui ont quand même un niveau tout à fait au-dessus de certaines équipes de Pro D2. Donc je la vois pas du tout se maintenir en bas du tableau de Pro D2 et rapidement avec la confiance et puis toutes les qualités qu'on leur connaît, remonter un petit peu dans ce championnat de Pro D2 qui est quand même très très difficile.
Oui, Pépito Elorga, voilà, on imagine que Agen va vivre une nouvelle saison. Nouvelle saison également pour le 15 de France. Vous, l'ancien arrière du 15 de France, on est obligé quand même de vous poser quelques questions sur ce match contre les Pumas ce soir. Comment vous les voyez, nos Bleus?
Bon, écoutez, plutôt bien. C'est vrai qu'on a, ça fait un petit moment maintenant qu'on prend plaisir à avoir joué le 15 de France. Après, bon, attention, les Argentins, c'est toujours... toujours compliqué de les jouer. La plupart des Argentins évoluent dans les plus grands clubs européens maintenant. Donc voilà, c'est toujours des matchs assez intenses. Mais je pense qu'on peut voilà faire confiance au staff qui est en place, aux joueurs qui voilà depuis quelques temps nous régalent.
Ouais, ces joueurs qui régalent. Que pensez-vous vous de l'association Intamac Jalibert?
Ouais, ça peut être une solution à voir. On a un Jalibert qui est très très bon en 10 actuellement. Bon, Intermac pareil. Ça n'a jamais été associé. Donc voilà, je pense que ça peut être l'occasion de lancer peut-être un nouveau duo. Ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant. C'est pas quand même le grand enthousiasme là, Pépito.
Non, mais c'est vrai qu'on est toujours. Moi un peu surpris, hein. C'est vrai que Intamac, moi je le trouve très bon en 10. Après autant, je sais pas, c'est quand même une grosse nation aussi en face, l'Argentine. Voilà, j'ai des interrogations, je vais pas dire que je suis super emballé, je me pose des questions, mais j'espère que ça va marcher.
Pépito, toi qui évoluais à l'arrière dans ta carrière, est-ce que cette règle des 50-22, comment tu l'aurais accueillie si elle avait été mise en place quand tu étais à l'arrière et international à ce poste-là?
Mais ouais, cette règle-là, mais oui, moi c'est vrai que j'avais plutôt un style de jeu avant où il fallait beaucoup relancer. C'est vrai que cette nouvelle règle, pour moi, ouvre un peu plus d'espace parce qu'on a plutôt tendance à garder un second rideau ou troisième rideau assez dense maintenant. Donc voilà, cette règle a été faite pour pouvoir jouer peut-être un peu plus au ballon et puis aussi il y a une part d'analyse, on l'a vu hein, quand les défenseurs sont voilà en place, et bien ça permet aussi de jouer dans le dos, de pouvoir récupérer le ballon dans les 22 si le ballon sort directement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne règle.
C'est une bonne règle. Tiens, peut-être à votre regard, Pépito, pour terminer sur Melvin Jaminet. Voilà, oui. C'est l'un des arrières, enfin en tout cas des appelés surprises depuis le mois de juin en équipe de France.
Ouais, c'est l'un des joueurs qui est en forme et il l'a démontré lors de toute la saison en Pro D2. Même les matchs qu'il a pu faire avec l'équipe de France, il s'est montré à la hauteur. C'était un jeune arrière en devenir qui plus est très très bon buteur, relanceur. Donc il a vraiment toutes les capacités en lui pour pouvoir s'imposer. Après c'est voilà la route reste longue. Il y a quand même de très bons joueurs à ce poste encore. Hein. Je pense à Dulin qui peut revenir en grande forme aussi. Donc, mais Jaminet, ouais, c'est vraiment la belle surprise de ce 15 de France.
Voilà, Melvin Jaminet qui aura le but, hein, Olivier, aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de poids quand même sur ce jeune joueur. Est-ce que c'était finalement pour pas donner le but à Jalibert ou à Ntamack? Est-ce que c'était une manière d'arbitrer le duel du leadership de nos deux maestros de Jalimac comme
Jalimac. Non, je pense plutôt que c'est une manière de répartir aussi les rôles, les responsabilités de manière à permettre à Jaminet aussi d'évoluer dans la continuité. Il avait le but en Australie, il va le garder, il était plutôt à l'aise avec ça. Je pense que les entraîneurs l'ont bien senti. Donc bon voilà, donc après je comprends aussi Pépito, je reviens sur son manque d'enthousiasme, un petit peu son enthousiasme timide pour l'association Jalibert-Ntamack. C'est vrai qu'on pense que les choses vont se faire comme ça, assez rapidement, que tout va s'éclairer finalement avec une association de talents comme eux, mais c'est pas aussi simple que ça. Et de la même manière que de croire que Jaminet va être aussi performant qu'il l'a été lors des matchs de la tournée en Australie, il faut attendre quand même. C'est vrai que la construction d'un joueur de haut niveau, elle se fait pas comme ça en l'espace de 2-3 matchs, et l'association encore moins de joueurs de talent, elle se fait à travers quand même une certaine régularité dans l'effort, dans la continuité. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est tout nouveau, donc il faut rester quand même assez patient et ne pas trop s'emballer sur des joueurs. Bon, pour l'instant, on a vu, je pense, du talent, effectivement, de très bonnes choses, mais il faut attendre de voir quand même sur des matchs à répétition et sur du très haut niveau, et notamment ces matchs de tournée et les matchs du Six Nations.
Daniel Herrero, est-ce que vous partagez quand même cette pondération de nos anciens que sont Olivier Magne et Pépito et leur regard?
Ben, tout spécialiste de rugby mettra sur le terme de la polyvalence ou de l'association de polyvalents à un très haut niveau un petit doute, comme une permanence. On sait bien que deux joueurs qui peuvent jouer de partout, c'est quand même franchement très intéressant. De partout à un très haut niveau, ils ont tous les attributs, j'allais dire, d'attaquants et de défenseurs de ligne offensive d'un 15 de très haut niveau. Ils savent taper des deux pieds. Ils ont des passes à gauche et à droite, ils sont extrêmement bons défenseurs, les deux sont en même temps des buteurs de très haut niveau. Bon, ça fait des attributs incroyables. Et tout le monde se dit, mais c'est quand même complètement légitime. Mais le mais, c'est, oui, mais quand même, un préfère jouer radicalement ouverture, un a les attributs psychologiques et moraux du poste d'ouvreur. L'autre, avec la polyvalence, on ne sait pas radicalement où sera sa capacité à être complémentaire. Tu vois, il y a toujours un petit doute qui...
Et puis le leadership.
Alors après, il y a à ce poste-là, ou à ces postes-là, là en l'occurrence le poste de demi d'ouverture, il y a quand même l'auréole de la décision stratégique quasiment sur l'ensemble du match. Cette auréole-là, elle pèse, et on voit bien que dans la polyvalence, il semble que ce soit quand même le poste d'ouvreur qui est un peu plus chargé en termes de responsabilité de distribution du jeu, et que là, en l'occurrence, c'est l'ouvreur. Il pourrait y avoir une petite zone d'ombre sur celui qui est déplacé, vu qu'il a un peu moins de responsabilité stratégique sur le match. Je ne crois guère à tout ça. Il semble, le monde entier, si on s'écoute tous, peut-être Pépito le bémol, mais si on s'écoute tous, on sent bien que le talent offensif est séduisant. On est séduit par cette hypothèse-là. Et on voit bien en même temps que les hypothèses de construction du rugby offensif dans la dernière saison, avec en l'occurrence Virimi Bakatawa et Gaël Flicou au poste de trois-quarts centre, avaient quand même une grosse valorisation de la puissance physique, de la qualité athlétique, de la détérioration physique agressive de la défense adverse par la puissance, notamment de Virimi Bakatawa et même évidemment de Gaël Flicou. Ça peut interroger Rocher, est-ce qu'il ne va pas en manquer un petit peu? Il y a aussi le petit bémol, que moi je crois inutile pour ne pas dire stupide, du manque de puissance défensif, tu vois, d'un ouvreur que l'on déplace au centre, en l'occurrence là par rapport à Romain Ntamack, et même un petit bémol sur la rudesse défensive de Jalibert, les deux ayant déjà fait très largement leur preuve. Pour moi, ça ne fait qu'augmenter un discours un peu stérile. On est aussi quand même très intéressé parce que sur le plan offensif, enfin, je dirais, cette équipe de France, et qui laisse germer beaucoup d'espérance dans le sens de la construction, pour l'instant, elle a été plutôt, depuis un an et demi, plutôt moyenne, très très bonne sur le plan défensif, relativement bonne sur la construction offensive, mais à peine relativement. Cette équipe de France a peu, développé de jeu d'un très bon niveau offensif et qui laisserait penser qu'il y a une progression. Pour l'instant, on est un peu en je ne veux pas dire en stagnation, mais le potentiel offensif de nos trois quarts français depuis un an et demi, il n'a pas laissé germer les très très grandes espérances. Et on voit arriver avec cette association-là l'idée quand même que sur le plan du volume de jeu, du volume de créativité, de la capacité technique à jouer dans la finesse à la fois devant la défense et peut-être même dans la défense, et à jouer notamment un peu plus aisément vers les extrémités, que le potentiel offensif avec cette association-là, qu'il a une belle espérance. Quoi, voilà.
Tout à fait, effectivement, on y croit en tout cas à ce duo, mais il faut voir, voilà, les duos ne se créent pas comme ça en quelques secondes. On va quand même demander l'avis à Julien Thomas et Philippe Spanguero, parce que voilà, on sait aussi quand même que ces deux joueurs, voilà, c'est pas les meilleurs copains entre guillemets, ils sont rivaux. Julien Thomas, vous n'avez pas eu que des copains, non, vous, sur les terrains, on le sait.
Bien sûr, Olivier et Daniel sur ça, c'est qu'il y a bien sûr, il y a un point d'interrogation. C'est même, j'ai envie de dire, le trio du pont Jalibert Ntamack, carrément. Mais c'est surtout, connaissant Fabien, pour l'avoir eu manager à Montpellier pendant quelques années, à te grignoter l'oreille et toujours à te dire, mais le rugby c'est un laboratoire, il faut tester les choses. Il était toujours projeté sur l'avenir. Je pense qu'il teste maintenant pour l'avenir, la Coupe du Monde, et que s'il y a des scénarios qui se présentent comme celui-là, qu'il ait l'option B, voire du plan B, voire son plan C même, parce qu'il est très dans ce schéma. Voilà. Le rugby en plus moderne et vers là où tend le rugby de demain, c'est la polyvalence des joueurs. On l'a vu la fin de match à Toulouse la semaine dernière, que Dupont était passé en 10, Ntamack au centre, Ficou qui peut jouer centre ou à l'aile, pareil pour Penaud. Donc c'est sûr qu'on va pas mettre Momo Awas en 15, hein, je vous rassure, mais je pense que ça c'est le on tend vers ce
déjà
rugby-là.
On est surpris de le voir sur le terrain, hein, franchement,
ça aussi on pourra en parler. Mais moi je trouve très alléchant cette triplette Dupont, Jalibert et Ntamack. Après, c'est le seul bémol, c'est que densité physique défensive, mais aller jusqu'au bout des choses, si Jalibert n'est pas le grand défenseur à numéro 10, pourquoi pas le mettre sur des phases statiques en rôle de demi-mêlée, c'est-à-dire en touche, le mettre dans le couloir comme un 9, à mêler, suivre la progression et puis mettre Dupont, Ntamack 10-12, qui Dupont quand même met des gros placards et qui est de plus en plus performant défensivement. Donc à tester, être le laboratoire, enfin, peut-être qu'il peut aller jusqu'au bout dans ses choix. Mais en tout cas, si la zone des rucks est rapide côté français, je pense que derrière, avec les pattes qu'il y a, ça peut faire mal.
Philippe Spanguero, votre regard sur cette doublette que Julien a étendue à un trio?
Ah ben oui, ben on peut comprendre, parce qu'en effet la vraie interrogation elle est plutôt défensive. Bien sûr qu'offensivement on est enthousiasmé et qu'on est impatient de voir ce que ça va donner ce soir. On voit le très gros début de saison de Mathieu Jalibert, Romain Ntamack a donné des certitudes aussi et des garanties, que ce soit avec le Stade Toulousain ou avec l'équipe de France, donc on est impatient. Mais c'est vrai qu'il y a cette interrogation défensive. On a lu, hein, que sur les phases défensives ça, ils allaient inverser, et que c'est Jalibert visiblement qui va glisser au centre. A priori, c'est comme ça que c'est défini pour l'instant, mais je pense que Julien amène aussi un point intéressant dans la réponse à la problématique défensive, en parlant de cette triplette plutôt que du binôme. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est vrai que moi j'ai un point d'interrogation en effet par rapport à la densité défensive, et puis en effet il faut tester plusieurs scénarios et plusieurs options. Aujourd'hui pour moi Vakatawa, Fikou, c'est indispensable au centre du terrain, mais il y a des blessures, on le voit ce soir, il y a des méformes, et pour préparer une échéance comme la Coupe du Monde, eh bien, il faut plusieurs scénarios. Et je note juste que Daniel est un peu en danger, parce que notre homme de lettres c'est quand même Daniel, et je trouve que Julien a eu un joli mot pour parler de Fabien Galthié en disant il te grignote l'oreille. C'est joliment dit. Non. D'habitude, on parle
de ronger le cerveau.
Quand il voilà. Mais le grignotage de l'oreille, je l'ai
c'est ça, noté.
Merci,
c'est ça.
Merci Julien.
Ouais. Avec plaisir. Voilà, c'est le lyrisme de nos consultants Sud Radio. Pépito et Lorga, merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.
Merci à tous.
Et juste un petit prono quand même, France-Argentine ce soir.
Ouais, bon, vu qu'on est axé sur l'attaque, là, sur ce match, je vois bien aller 25 points pour les Français et un 17 pour les Argentins.
Eh ben voilà, 25-17 pour Pépito, c'est noté, on vous rappelle si ça colle. Merci en tout cas, à bientôt Pépito sur l'antenne de Sud Radio. On va remercier également Rémi Dos Santos qui était avec nous. Pas le féliciter pour le match de Brive Racing.
Oui, mais j'avais annoncé qu'il y aurait un essai à la fin.
Ouais, c'est vrai.
J'ai quand même réussi.
Mais il n'y en a eu qu'un, 12-10, voilà. C'était la 10e journée du top 14, voilà. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les Bleus. Restez avec nous sur Sud Radio.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Sport, le mag, François Triau.
Le mag tourné vers le France-Argentine, coup d'envoi dans 1h07 sur l'antenne de Sud Radio, match que nous suivrons en intégralité. Daniel Herrero sera avec nous, Olivier Magne est dans le studio Sud Radio, Julien Thomas est là également, bien sûr, Philippe Spanguero également. Et Alexandre Priam, lui, il est vraiment là, bien installé dans les tribunes du Stade de France.
Et oui, et commence à avoir un peu de monde.
La pression monte, pas de joueurs sur la pelouse encore, ou des buteurs peut-être.
Non, on a vu Cameron Hockey faire travailler un petit peu Julien Marchand en touche. On a vu aussi François Cross faire quelques pas sur le terrain. Là, vous voyez en bas, eh bien Anthony Gelon qui fait des longues passes à destination du staff. Voilà, quelques joueurs sur le terrain, mais c'est encore bien calme, hein, évidemment. Par contre, en tribune, ça commence à se garnir doucement. On attend entre 50 000 et 55 000 personnes aujourd'hui dans ce Stade de France.
Oui, bien sûr, ce Stade de France qui va résonner, tout comme le Millennium. Résonne à Cardiff, 15-12 pour les Gallois face aux Sud-Africains. On approche l'heure de jeu actuellement. C'est un match très très engagé. On rappelle également dans les tests internationaux la victoire large des Anglais face aux Tonga 69-3, la victoire large des Néo-Zélandais 47-9 face aux Italiens, et puis le carton de l'Irlande face aux Japonais 60-5. Olivier Magne, vous avez suivi ces tests internationaux. Voilà, que faut-il en retenir? Les Néo-Zélandais étaient en balade à Rome.
Ouais, c'était la Dolce Vita un petit peu pour les All Blacks. C'est vrai que c'était bon, l'équipe B, elle était vraiment remaniée cette équipe, et puis il n'y a pas trop d'enseignements à tirer finalement pour l'équipe de France de ce match de la Nouvelle-Zélande contre l'Italie. Voilà, une équipe italienne qui s'est bien défendue, et bon, malgré tout, après le
7 essais à 0.
Ouais, le score a enflé, notamment sur des ballons portés, mais beaucoup d'imprécisions, beaucoup de ballons tombés de la part des All Blacks. 11 ballons perdus en première mi-temps pour les Néo-Zélandais, c'est beaucoup pour une équipe comme ça, de ce niveau. Donc voilà, pas trop d'enseignements à en tirer. Après, sur le second match de l'Angleterre contre les Tonga, là aussi, une équipe de Tongienne très faible qui avait pris 60 points la semaine dernière contre l'Écosse.
Et elle a repris 60.
Elle a repris 60 points, un peu plus 70. Même, voilà, contre les Anglais qui ont voilà, alterné le bon et le moins bon. Il y a eu de belles séquences sans pour autant nous convaincre plus que ça. Toujours est-il que voilà, c'est une équipe anglaise qui a permis aussi de voir de jeunes joueurs et de mélanger voilà, une jeune génération avec une peu plus ancienne qui est plus placée devant, et des jeunes joueurs derrière qui ont fait bonne impression. Donc voilà, une équipe anglaise qui va avoir fort à faire la semaine prochaine face à l'Australie, et peut-être encore plus fort avec la revanche de la finale de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud dans 15 jours.
Revenons à nos petits Français, peut-être un mot de conclusion pour Julien Thomas qui va nous laisser, Philippe Spanguero également, voilà, notamment sur ce match. Voilà, faut-il s'attendre à un match piège, Julien, ce soir face aux Argentins?
Ah ben, entre Latins, je pense que c'est un match piège. Ça a tout le temps été le match piège pour les Français. Les Argentins avaient l'amour du maillot et qui vont se livrer à 300% comme chaque fois. Donc, je pense que déjà, il va falloir, sur les fondamentaux et les bases du combat, être irréprochable pour pouvoir, vu la composition du 15 de France, être efficace, bien sûr, après tout ça.
Vous les voyez gagner, quand même?
Ah oui, bien sûr, je les vois gagner, les Français. Oui, oui, bien sûr, les Français, mais je sais que les Argentins vont vendre leur peau chèrement.
Bon, Philippe, un petit prono quand même, face à des Argentins qu'on dit pas bien, parce que c'est vrai qu'ils ont raté leur rugby championship, mais qui étaient dans des conditions particulières. Là, ce soir, c'est pas le même match pour eux.
Non, c'est pas le même match. On voit la composition de cette équipe argentine. Alors, encore plus qu'à l'accoutumée, on peut s'attendre à un très gros combat devant. Il y a beaucoup d'agressivité dans le pack, et notamment en deuxième et en troisième ligne du côté argentin. Il faudra y répondre. Moi, je pense que ça a été bien préparé du côté français, qu'on n'a pas du tout pris de haut cette équipe argentine. Mais il faudra vraiment y mettre les ingrédients, parce qu'ils vont nous opposer un très très gros combat. Je pense que derrière, on a les arguments pour faire un grand match, et un match avec des points, un match avec des essais. Donc pour pronostic, je dirais une victoire française, bien sûr. Allez, 30 à 18.
30 à 18, c'est noté, messieurs. Et on sait que vous avez été bon aujourd'hui en prono, Philippe. Merci en tout cas. À très vite sur l'antenne de Sud Radio. Le coup d'envoi de France-Argentine, c'est dans une
bon
heure
match,
et quelques
bon
minutes.
Match,
bon match, on va se régaler sur l'antenne de Sud Radio. Restez avec nous.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Sport, le MAG, François Triot.
France-Argentine, c'est dans une heure sur Sud Radio, en direct, en intégralité, avec toute l'équipe. Daniel Herrero sera là aux côtés d'Alexandre Priam. Vous, les auditeurs, bien sûr, au 0826-300-300. Et puis Olivier Magne, qui est avec nous encore pour quelques minutes dans le studio. C'est un plaisir de vous avoir. On vient de voir un truc assez incroyable. Il y a 18-15 pour les Gallois face aux Sud-Africains. C'est à Cardiff en direct, 65e minute, 6e minute à peu près, Olivier. Et puis, il y a eu quand même un moment où il y avait un temps fort gallois. Il y a eu l'intervention d'un stadier. Parce qu'il y avait un envahisseur.
Ouais, exactement. les Gallois qui étaient dans de très bonnes dispositions, dans les 22 mètres adverses, avec une attaque de trois quarts. Et soudainement, on a vu un spectateur surgir sur la pelouse, bien arrêté par un stadier, bien plaqué d'ailleurs, et qui a gêné un petit peu l'attaque galloise, qui aurait pu peut-être aller au bout. Donc voilà, ça a été un moment un petit peu perturbant pour les deux équipes.
Ouais, et bien direction le Stade de France, parce qu'on espère voir d'aussi beaux plaquages ce soir avec Alexandre Priam. On a l'impression qu'il y a une ambiance plutôt bayonnaise ce soir, non?
Légèrement, ouais. Légèrement, effectivement. On vous montre ça d'ailleurs sur l'application, sur le site Sud Radio, sur Twitch, en Facebook Live aussi. On vous montre tout ça. Effectivement, c'est plutôt bayonnais, hein, un petit vinogrégo là, voilà, dans ce Stade de France. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir une loge derrière moi et de ne pas me prendre un verre de vin, Olivier. Ça, c'est une assurance que j'ai aujourd'hui.
Ah, incroyable. Ouais. Mais ça va arriver. On a prévu, on a demandé à les gens de s'occuper de votre cas.
Parce que ça arrivait à Olivier et à Nicolas la semaine dernière à Chaban-Delmas.
Mais à Bordeaux, ça paraît logique.
Ouais, effectivement.
Oui,
mais
forcément. Ouais. Voilà, mais on s'attendait pas à ça.
Merci, Quentin.
Mais c'est déjà oublié pour Olivier. Il se projette sur le match d'après. Le match d'après, c'est France-Argentine. Olivier Magne, justement, on le disait, ces Argentins, ils sont pas au mieux dans cette saison. Ils ont passé un rugby championship un peu difficile. Mais c'est vrai, il faut pas oublier qu'il y a un an, ils ont battu les Blacks. Et qu'il y a deux ans, ils perdaient contre les Français en Coupe du Monde, au Japon. Forcément, eux, ils ont envie de se positionner. Ils ont envie aussi, quand même, non pas de prendre une revanche, mais enfin, en tout cas de marquer leur territoire.
Ouais, et puis ils sont. Vous avez effectivement, c'est important de rappeler leur performance ces dernières années, et puis leur vécu, notamment avec leur franchise argentine qui joue dans le rugby championship, donc qui peut se confronter au rugby de haut niveau, au rugby de l'hémisphère sud, qui est, je pense, en termes de jeu supérieur à nos championnats respectifs. Et puis cette équipe argentine qui, depuis maintenant quelques saisons, même si elle n'arrive pas à rivaliser avec les meilleurs équipes de l'hémisphère sud, à gagner en tout cas le championnat de l'hémisphère sud, arrive tout de même à réaliser de bons matchs. Et de dire de cette équipe finalement qu'elle est moyenne, qu'elle n'est pas dans un bon bien axé dans son jeu, qu'elle n'arrive pas finalement à bien jouer ses derniers matchs, ça peut peut-être la vexer et lui permettre finalement de trouver les ressources nécessaires pour nous poser problème au Stade de France. Maintenant,
est-ce que c'est pas une équipe de coups, l'Argentine, de peut-être pas toujours performante sur une année entière, mais sur des matchs ciblés, être très forte, Olivier?
Ouais, je crois qu'elle en est capable. Après, elle a montré aussi qu'elle était capable de tout à fait réussir des compétitions au long cours, hein, sur des Coupes du Monde. Maintenant, oui, effectivement, en ciblant particulièrement ce match à Saint-Denis ce soir contre l'équipe de France, cette équipe argentine, elle est quand même très, très dangereuse, il ne faut pas l'oublier. Après, je pense que le potentiel collectif, offensif, même voire défensif de cette équipe de France me paraît supérieur à celle de l'Argentine, et c'est pour ça que je vois pas, même ce soir, un match quand même très serré. Je pense que ça va être très dur pendant peut-être 40, une mi-temps, voire 60 minutes, mais après je vois l'équipe de France quand même dominer cette équipe d'Argentine dans sa totalité.
Oui, cette équipe argentine dont a parlé Gaël Ficou. Oui, c'était cette semaine en conférence de presse. C'était cette semaine, Quentin Cabanis, bien sûr. L'Argentine qui vit des moments difficiles, voilà. Et qui s'est exprimé donc à notre micro, Sud Radio, bien sûr, des propos recueillis par Alexandre Priam. C'était à Marcoussi, écoutez-le.
Il faut rester vigilant. L'image qu'on a vue ces 6 derniers matchs, c'est pas celle qui reflète vraiment l'Argentine. L'Argentine est capable de gagner à la Nouvelle-Zélande. L'Argentine est capable de faire des coups d'éclat. C'est une nation qui a énormément de qualité et qui peut se sublimer sur certains matchs. Donc, on sait que face à nous, ça sera un match différent des 6 derniers. Ça, c'est certain.
Oui, les 6 derniers, référence au Rugby Championship 2021, joués en Australie, donc loin de leur base, hein, aussi pour des Argentins qui ont vécu quand même 2 ans un peu difficiles. On en reparlera parce que tout à l'heure, on aura Federico Martín Aramburu, l'ancien Biarro et Perpignanais argentin qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. Je voulais quand même avec vous, Olivier Magne, détailler un peu cette troisième ligne qui est l'une des innovations de la composition d'équipe. Voilà, il y a Cameron Wauquiez, il y a Anthony Jelon, il y a François Cross. En quoi est-elle complémentaire et en quoi est-elle, on va dire, supérieure à une troisième ligne avec Grégory Aldrit, par exemple?
Je pense dans le déplacement, hein, c'est une troisième ligne qui est peut-être qui a une capacité à évoluer, à un abattage important, à faire énormément, à se déplacer énormément sur le terrain. Alors Cameron Wauquiez, pour sa qualité principale, bien évidemment c'est la touche, où il va pouvoir essayer d'aller chercher énormément de ballons, voire de contrer certains ballons sur la touche adverse. On connaît aussi ses qualités, on les a vues d'attaquant, on les a vues notamment cet été en Australie, où il était dans tous les bons coups, et où il a énormément touché de ballons. Et puis après c'est Anthony Jelonche, dont on connaît la force de caractère, mais aussi la puissance physique. Un garçon quasiment qui est très dur défensivement sur
l'homme,
qui est légère soi déjà, qui est quasiment imbattable défensivement dans les petits périmètres. Et puis après c'est le calme, la sérénité, le leadership de François Cross qui est à mettre en avant, et surtout sa gestion très très juste des moments difficiles. Et ça, c'est une qualité très très importante que recherche certainement le staff de l'équipe de France. C'est que dans des moments faibles, il faut être aussi capable de capitaliser sur des joueurs qui ont cette science du jeu, qui connaissent parfaitement la physionomie d'une partie et qui savent comment faire pour retourner quand un ascendant est pris par l'équipe adverse. Et donc, je pense que François Cross est un garçon qui a cette capacité-là. Donc c'est pour ça que cette troisième ligne, moi je la trouve très complémentaire. Je voudrais aussi citer l'apport possible de Makalou, après peut-être, on l'espère, dans un second temps, qui va apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de...
Makalou, troisième ligne ou ailier? Non, mais parce que on l'a vu beaucoup se positionner à l'aile, à Marcoussi, au moment où il est rentré. Hein.
Mais tu as raison, Alexandre. Mais en tout cas, c'est un garçon qui a la possibilité de jouer sur ce registre-là, d'ailier, mais peut-être que sur les lancements de jeu, sur des phases de jeu, c'est un garçon qui peut tout à fait se positionner dans ce jeu-là, tout en jouant évidemment troisième ligne sur les phases de mêlée, par exemple. Mais en tout cas, c'est un garçon qui offre de nombreuses possibilités, et j'espère qu'on le verra très rapidement, notamment en deuxième période sur ce match contre entre les Pumas.
On va le voir bien sûr et on va le suivre sur Sud Radio tout, tout au long de cette soirée qu'on envoie à 21h. C'est à Saint-Denis et c'est en intégralité sur Sud Radio. Quand même, est-ce que c'est une sanction pour Grégory Aldrit qui était quand même un leader? Alors Fabien Galthié, il est habile, il va nous dire que c'est un finisher et qu'il a densifié son banc pour avoir un finisher, mais quand même c'est qu'est-ce qu'il paye là Aldrit, parce qu'il n'a jamais démérité en bleu.
Non, il a jamais démérité, mais il faut bien constater que son début de saison n'est pas en rapport avec les performances qu'on attend d'un garçon comme Aldrit. Donc je pense que...
Donc ça vous semble logique, Jelon, devant Aldrit en 8?
Moi j'ai toujours dit que cette troisième ligne, de toute façon, celle qu'on a annoncée, Olivon, Cross, il y a encore quelques mois, elle n'est pas fixée. Et je crois que la troisième ligne, même celle qu'on voit ce soir, elle est loin d'être fixée, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont potentiellement capables de prendre une place de titulaire dans cette équipe, il y a beaucoup de changements possibles. Donc... L'idéal, c'est d'avoir 7 ou 8 joueurs troisième ligne qui soient du même niveau, et puis après, au moment voulu, choisir en fonction des matchs les joueurs qui seront les plus à même de faire gagner l'équipe de France. Donc, c'est pas une sanction, c'est l'équipe en premier, et je pense que ça, c'est à mettre en avant en particulier. Je pense que Grégory Aldrit a très bien compris, c'est que son cas personnel importe peu. Ce qui importe, c'est que l'équipe soit forte, soit à même de remporter tous ces matchs, et je pense que cette composition a le mérite en tout cas de mettre en valeur les joueurs qui le méritent le plus à ce moment-là, en tout cas de l'année.
Oui, en tout cas ça offre quand même une possibilité sur le banc qui est quand même assez intéressante. Ouais. Le choix du 6-2, Alexandre, vous qui étiez à Marcoussis toute la semaine, vous avez campé là-bas, il paraît. C'est sympa.
Non mais il est super intéressant ce choix du 6-2, parce que sur la plupart des entraînements qu'on a vus, le numéro 22 était porté par Mathis Lebel, qui est du coup hors de la feuille de match. Il est 25e homme aujourd'hui, Mathis Lebel, mais il n'est pas sur ce banc. Et il y avait Lucu en 21, 22 Lebel et 23 Danti. Sauf qu'il y avait un homme, un certain Makelou, qui avait un chasuble bleu, donc le chasuble des titulaires, sans numéro. Sans numéro, et c'était le seul homme qui n'avait pas de numéro, et on le voyait rentrer à l'aile beaucoup, on le voyait et il faut le dire sincèrement, dès qu'il prenait la balle, il traversait le terrain quasiment, Makelou, à l'entraînement à haute intensité. Donc c'est vrai qu'il a ce côté quand même assez détonnant, assez hallucinant, quand on le voit accélérer. Il y a une chose de le voir en tribune à la télé, puis à 5-6 mètres, c'est un alliage de puissance et de vitesse, c'est incroyable.
Ça fait moins de 11 secondes au 100 mètres, Makelou.
Ah non mais c'est la folie,
dans ces eaux-là.
Ah non, mais c'est vraiment de la folie, Makelou. Et le fait qu'il n'ait pas de numéro,
on avait compris.
Ah non, mais il y a lui, et puis il y a Flamand aussi, on pourra en parler, qui a été aussi assez exceptionnel cette semaine, enfin depuis deux semaines maintenant à Marcoussis. Mais voilà, le fait qu'il n'ait pas de numéro, on avait bien senti que c'était la variable, c'était lui entre le 5-3 et le 6-2. C'est le choix du 6-2 qui a été emporté, et je suis persuadé, alors peut-être que je me trompe et que je me fais une fixation là-dessus, que Fabien Galthié dans sa tête se dit, s'il faut le faire jouer un petit peu à l'aile en fin de match, j'ai pas peur de ça. Je pense que c'est dans son esprit.
On est d'accord. Je pense que dans sa réflexion, évidemment, il a dit Makelou, avec le potentiel physique, athlétique qu'il a sur l'aile, le faire entrer un quart d'heure à l'aile sur une fin de match, ça sera pas un problème s'il y a trop de blessés derrière. C'est une option, même sur d'autres positions, mais ça, bon, après,
veut dire quand même que Fabien Galthié et tout le staff du 15 de France se méfient de ce pack argentin, parce que quand on a un attelage Lavagnini, Guido Petit, on les connaît bien. C'est du solide. Kremer, Matera, c'est du très solide. Et Issa, il est Facundo Issa, le Toulonnais, qui a inscrit un essai qui a permis aux Toulonnais dans le marécage de Mayol la semaine dernière de l'emporter. On sent quand même que c'est une équipe qui va pas être facile à manier devant, notamment dans les rucks. Hein.
Ouais, complètement. Et on peut imaginer que cette confrontation entre deux packs très costauds est peut-être un avantage supérieur à cette équipe de l'Argentine. Ça peut provoquer certainement des blessures devant, et voire de l'usure de la part de notre paquet d'avant. Donc c'est vrai que de mettre 6 avant contre cette équipe d'Argentine qui va proposer, je pense, dans un premier temps, énormément d'affrontements, qui va vouloir nous défier sur le physique et faire céder cette équipe de France, notamment devant, parce qu'elle sait que si elle prend l'avantage devant, elle peut nous poser énormément de problèmes. Donc elle va essayer évidemment d'axer son jeu sur le jeu d'avant. Et donc je trouve que c'est plutôt judicieux de mettre 6 avant remplaçant.
Oui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. 20h15 sur Sud Radio au Stade de France, Alexandre Payet. Liam.
Ah, vous avez entendu une petite clameur quand même du Stade de France parce que eh bien, l'équipe de France vient d'entrer sur le terrain pour l'échauffement. Les Argentins aussi sont entrés il y a quelques instants. On a vu l'accolade entre Maxime Lucu notamment et Nicolas Sanchez. Voilà, ça s'échauffe. On a vu buter Jalibert, Jaminet et Tamac de la longue distance notamment hein, pour les trois. Antoine Dupont est au niveau des 40 mètres. Il s'échauffe tout seul, il fait des allers-retours, il travaille les épaules. Antoine Dupont pour l'instant est en train de tout simplement de se mettre en route pour essayer d'échauffer les corps et puis on va passer bientôt sur des ateliers.
Ouais, et ça bouge hein, du côté de Cardiff où les Sud-Africains sont passés devant la SC sur ballon porté, la 74e minute, 20-18 avec la transformation qui est à suivre. Bien sûr, on parlait de Thibaut Flamand il y a quelques instants. Bien sûr, on va en parler maintenant. Voilà, bien sûr. Cette sélection, est-ce qu'elle vous surprend ? C'est partie des expérimentations ou c'est vraiment la récompense d'un joueur qui survole son poste ou son début de saison, Olivier Magne ?
Ouais, je pense que c'est plus une expérimentation. C'est vrai que c'est un joueur qu'on va découvrir. Alors après, il évolue évidemment dans un grand club et il joue dans un grand club, donc on peut imaginer que c'est un garçon qui a la stature, qui a les épaules pour revêtir le maillot bleu, pour jouer au niveau international. Mais voilà, on est quand même surpris de cette sélection. Alors après, c'est vrai que le réservoir en deuxième ligne, il est quand même pas très très fourni. C'est un petit peu le problème chez les Bleus. Et donc de voir un garçon comme ça arriver avec ce potentiel physique, ce potentiel athlétique, ce potentiel mental aussi, parce que c'est un garçon qui a une histoire un peu particulière et donc qui a un vécu important déjà à son âge et une belle maturité.
Qui a joué en Argentine.
Ouais, qui a joué en Argentine. C'est intéressant. Donc je pense que c'est plus une expérimentation de la part de Fabien Galthié, pensant que déjà jouer au niveau où il joue déjà avec Toulouse, c'est pas prendre beaucoup de risques pour son pack.
Oui, on va écouter d'ailleurs le sélectionneur Alexandre sur c'est Fabien Galthié, sur Thibaut Flamand, le Toulousain Thibaut Flamand, 24 ans, donc il va connaître sa première sélection. Écoutez Fabien Galthié.
Thibaut Flamand, eh bien, tout simplement, il rentre dans le vestiaire de par ses performances, il vient chercher son maillot hein, parce qu'il est. Il va vite, il performe avec le Stade Toulousain, il a commencé déjà à performer avec les WASP, avec un parcours atypique, je pense que vous avez étudié son parcours, et il continue à imposer son talent, sa présence aux entraînements, dans le quotidien. C'est un joueur qui est venu chercher son maillot, comme on le dit, dans le vestiaire.
Oui, dans le vestiaire. Voilà, parlez-nous quand même de ce Globetrotter, Alexandre. C'est un joueur qui a une trajectoire à part. Et c'est ça aussi, c'est une manière aussi de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre le plus haut niveau.
Ouais, effectivement, il est à la fois passé par la Belgique tout petit, il a même un petit moment vécu à Singapour et il a été ensuite du côté de l'Argentine hein, où il a même évolué dans le championnat national argentin très jeune avant de faire ses études à Loughborough au nord de Londres hein, du côté de Nottingham et puis ensuite d'intégrer les London Wasps avant d'être repéré, rapatrié par le Stade Toulousain et c'est étonnant.
Il était à Basse, non, quand Pierre-Henri Boncamp
pour moi c'est les Wasps
les Wasps d'accord oui. Non, mais c'était contre Basse que Pierre-Henri Brancan justement avait noué contact avec lui.
Ouais, et dès la semaine dernière, en fait, dès son arrivée à Marcoussis, on avait une petite info d'une source à Marcoussis qui nous disait qu'il avait un peu bluffé tout le monde. Alors, il bluffe tout le monde de toute façon, hein, Flamand, de par sa personne, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, polyglotte, très réfléchi, très avenant, très souriant. Enfin, il a beaucoup de qualités humaines. Et on pensait pas à ce point-là, en fait, rugbystiquement, qu'il avait épaté autant de monde. Et de nouveau, hein, je me réfère sur l'entraînement à haute intensité où forcément, on voit hein, les joueurs entre guillemets à pleine puissance, à plein potentiel. Et là aussi, il a été très impressionnant. Je me rappelle d'une action où les Bleus partent de leur 5 mètres, Dupont pour Danti le raffume main droite sur Moefana. Et derrière, eh bien, celui qui est au soutien, t'as Villière à gauche, Flamand à droite. C'est Flamand qui est servi à l'intérieur. Et ça finit sur une chistera de Flamand pour Villière qui marque un essai de 100 mètres. Et il était pas à fond hein, en suivant Danti. Bandanti. Donc il a vraiment des qualités de course assez exceptionnelles, Thibaut Flamand, alors il y a un débat sur deuxième ligne, troisième ligne. Lui-même d'ailleurs, le débat l'a souvent habité dans sa carrière. Est-il plus un deuxième ligne ou un troisième ligne? Il fait 2m03, mais il a un immense rayon d'action. Moi, c'est un débat, je trouve intéressant, parce que est-ce qu'un deuxième ligne qui court partout doit être un troisième ligne? Je pense que c'est pas exactement la même chose, mais Olivier, a priori, a plus d'expérience que moi dans ce domaine.
Ouais, non, mais complètement, Alexandre. On a vu, d'ailleurs, pour reprendre un petit peu ces profils de joueurs qui peuvent jouer deuxième ligne, troisième ligne, on le voit, c'est de plus en plus d'actualité dans le rugby international, avec les White Lock, les Retallick, les Courtney Laws, les Maro Itoje, qui peuvent tout à fait jouer deuxième ligne et troisième ligne. Aujourd'hui, la différence entre les postes, vraiment, ça menuise considérablement. Et c'est vrai que, voilà, si demain on trouve un deuxième ligne qui a encore ce profil, peut-être un peu plus, encore un peu plus lourd, mais qui a aussi un abattage conséquent dont on a besoin peut-être pour les phases ordonnées, la mêlée, la touche, et qu'on puisse placer Flamand en troisième ligne, ça reste aussi des options, parce que c'est un garçon qui a tout à fait la possibilité de jouer à ce poste. Donc voilà, d'avoir des garçons comme ça, avec cette capacité de déplacement, d'exécution, une qualité technique aussi qui est vraiment présente de la part des deuxièmes lignes, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est quand même des atouts considérables pour l'équipe de France. Et c'est vrai qu'ils ont un numéro dans le dos, ils l'ont sur les mêlées, sur la touche, mais après dans le jeu, vous verrez que Flamand, on le verra autant qu'un troisième ligne ballon en main.
Oui, Daniel Herrero est avec nous. Bonsoir Daniel, le cas Thibaut Flamand. Qu'est-ce qui vous inspire quand même? Parce que qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche un suppléant à Bernard Leroux. Aujourd'hui, Bernard Leroux jouait avec le Racing à Brive, et là c'est Thibaut Flamand qui fait ses débuts. On cherche à doubler le poste là dans le cas présent.
Ben effectivement, il y a quelque chose qui relève d'une analyse plus globale sur la titularisation d'un seconde ligne. C'est pas simplement il y a quelqu'un de blessé, on fait jouer, ou il y a quelqu'un qui est un peu en méforme et on fait jouer un autre joueur qui émerge. Bon, Thibaut Flamand, on voit bien qu'il est en potentiel depuis un an ou deux. Dans les 6 derniers mois, il a mis vraiment le nez à la fenêtre en étant titulaire au Stade Toulousain, et il a enchaîné quelques 3 ou 4 matchs qui font qu'aujourd'hui on peut le voir émerger au plus haut niveau international. Magnifique. Mais on voit bien que Thibaut Flamand, il a des attributs assez originaux. En l'occurrence, il est plutôt long et bon en aérien. Mais en même temps, il est assez dense et bon dans le déplacement et bon dans la zone, on dira, des confrontations ou des collisions. Il ne s'est pas endormi du défi physique. Et en même temps, il a une technicité qui est déjà assez évoluée. Ce qui fait qu'on l'estime...
Un deuxième ligne qui évite l'adversaire, c'est intéressant quand même.
Je ne crois pas, moi. S'il évite tout le temps l'adversaire, je ne crois pas. Tu vois,
pas tout le temps, mais à pleine course, il aime bien.
Voilà, mais il aime l'intervalle. Il aime donner la balle dans l'intervalle. Il aime la recevoir dans l'intervalle. Et puis surtout, il a le poumon et la guibole, et même l'aisance motrice au niveau des bras, je dirais, pour aller jouer un peu de partout et pour se servir intelligemment de son volume de course. En d'autres termes, il arrive avec un potentiel haut. Mais on le voit, on en connaît quand même quelques-uns dans le niveau international. Je ne sais pas, on va Brody Retallick, c'est ce genre de joueur depuis maintenant 7 ou 8 ans. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait vu arriver Artiri Turia chez nous en France.
Dutoit avec les Sud-Africains aussi.
Voilà, Dutoit complètement avec les Sud-Africains. Il peut jouer seconde ligne, il peut jouer numéro 8. Itoje, n'en parlons guère. Bon, et presque dans toutes les nations, aujourd'hui, t'en bois un comme ça, un ou deux. Avec une idée qui est, ils sont quand même bons dans l'aérien, ils peuvent présenter des attributs en mêlée fermée, mais surtout, si le volume de jeu d'ensemble de l'équipe grandit, si le talent offensif germe, si on a des options stratégiques qui vont vers la course, qui vont vers le mouvement, qui vont vers la variation du jeu. Alors ça, on dira la variation du jeu, grosso modo, c'est dans les deux axes, quoi, l'axe du défi frontal et du harcèlement de la défense, et l'axe du contournement, l'axe de l'intervalle, l'axe des extrémités. Bon, si le volume de jeu va vers là, alors là, Thibaut Flamand, oh, tu te dis, pas mal. Effectivement, on met un peu au frigo le roux, qui est quand même la caisse base du pack d'avant français. On met au frigo Grégory Aldrit, pour mettre un troisième centre, en l'occurrence Gelon, qui a un peu comme Flamand quasiment tous les attributs, notamment ceux de la course et ceux du volume, en même temps qui n'est pas évidemment qui est pas déficitaire sur le plan du défi physique. Donc on se prive de Bakatawa, le meilleur perforant derrière, on se prive de Leroux, le meilleur perforant devant, on se prive d'Aldrid, le deuxième meilleur perforant devant. Ah, tu dis, il y a un sens ou il n'y a pas de sens? On ne nous l'a pas expliqué.
Bakatawa, c'est une blessure, mais oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment général. Ouais.
Ah ben oui. Ah oui, les deux plus gros perforants devant, tu les mets au frigo. Bon, il y a des raisons. Et on va te trouver n'importe quelle raison aujourd'hui avec l'argumentaire, je dirais linguistique, tu vois. On préfère un finisher type Aldric que quelqu'un qui va débuter.
Officiellement, il veut un vice-capitaine sur le banc. Et vu qu'il fait partie des vice-capitaines, les vice-capitaines sont Ficou, Gelon, Aldric, Marchand. Et ça, tu ne crois pas, vous dites, pour vous, c'est la communication de Fabien Galthié.
Ah oui, non, cher, là, c'est un truc d'enfumage. Non, ça ne tient pas la route. Il reste que Grégory Aldric est un peu moins bon et donc il est au frigo et qu'il pourra rentrer peut-être dans les derniers quarts d'heure si on en a besoin.
C'est pipo donc de Fabien Galthié.
Ça nous y habitue avec des mots qui nous donnent l'illusion qu'il y a effectivement quelque chose de bien grandiose. Mais là en l'occurrence, il met plutôt sur le banc des joueurs qui semblent un peu moins bons et il titularise. Alors moi ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement il se prive pour des raisons diverses, une blessure et deux joueurs un peu moins bien en ce moment que sont Leroux et Aldric, et il oriente les trois plus gros perforants, il s'en sert pas, enfin il les a pas dans la formation d'équipe, et il oriente son 15 avec une augmentation d'un volume de déplacement et d'un volume très élevé de possibilités de construction du rubis. Il a des avant-coureurs, il a des avant-tambours, il a des trois quarts techniques, il a des trois quarts relativement équipés aussi pour le défi, pour la puissance, parce que quand tu fais jouer comme Gaël Flicou et Damien Penaud, t'es pas handicapé sur le plan du défi physique. Voilà, en d'autres termes, moi je vois plutôt avec la titularisation de Thibaut Flamand l'émergence claire et nette d'une idée, on veut augmenter notre volume de jeu. Ouais,
et je pense, Daniel, qu'il y a quand même une réflexion assez importante de la part de Fabien sur les matchs précédents de l'équipe de France, sur les deux dernières années. Ce qui a marqué un petit peu l'équipe de France, c'est que, et les observateurs, c'est que cette équipe de France, elle a un déficit sur le plan offensif. Donc avec les joueurs que tu as cités, on a toujours eu ce sentiment que l'équipe n'avait pas les atouts qui lui permettraient peut-être de relever le défi du très très haut niveau. Donc peut-être qu'avec cette formule et les changements qui ont été opérés, peut-être que cette équipe de France va nous trouver des solutions et trouver son jeu offensif à travers les joueurs qu'elle a, et peut-être ces joueurs comme Flamand, comme Macalou, tous ces joueurs qui peuvent se déplacer, qui peuvent donner peut-être une autre vision, un atout supplémentaire dans le secteur offensif à cette équipe de France qui cherche quand même à se trouver sur le plan collectif.
Daniel. Oui, je me permets, effectivement, Olivier, bon, on est complètement d'accord. Il reste que dans la construction de cette équipe avec ce staff, il y a maintenant 18 mois ou un an, quasiment deux saisons, quoi, tu vois arriver, c'est-à-dire l'éternelle interrogation fondamentale, tu vois, et pourtant parfaitement respectable, qui est il nous faut des caisses, il nous faut des gaillardasses, il nous faut des fondamentaux assurés, il nous faut une mêlée plutôt bonne, il nous faut quelques longilignes pour les prendre des ballons hauts, et là on voit bien qu'ils ont sorti, je dirais, Mohamed Awas avec l'idée que c'était probablement qu'il se déplaçait, mais c'était quand même un gros robuste original. Ils ont sorti Will MC, dont on se disait d'où il sort celui-là, quand même il est un peu dodu, il est ventripotent, il n'est pas de chez nous en plus, enfin bon, et à la sortie on en fait un titulaire à part entière parce qu'il a une caisse grave, une caisse rare dont on a besoin au plus haut niveau international avec Leroux. Ben on voyait bien que la construction de notre paquet d'avant était férocement basée sur l'équilibre entre les tambours, la rudesse, la combativité agressive, le défi physique, la puissance athlétique, tu vois ça, et des joueurs. Voilà, maintenant il semble, après 18 mois ou un an et demi, où le courant de sympathie est fort, mais le jeu est encore moyen, tu vois, il semble que derrière ce courant de ces parties, l'incroyable solidarité de ce 15 de France, l'incroyable jovialité qu'ils ont à se retrouver à jouer ensemble, l'incroyable confiance qu'a généré, qu'a réussi à générer les 4 ou 5 brillants, tu vois, dans l'obtention des résultats dans les temps récents, et bien là maintenant, on a la sensation, aujourd'hui, commence une nouvelle histoire. Et moi, je vous avoue que je suis très très à l'écoute, ou tout autrement très intéressé pour savoir comment aujourd'hui cette équipe de France va jouer.
Ouais, ben nous aussi, et on est tous prêts, d'ailleurs les éditeurs Sud Radio également, au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Le coup d'envoi dans une demi-heure sur Sud Radio. On va rien manquer, pas une seconde, pas une miette sur Sud Radio. Merci Olivier d'avoir été avec nous.
Merci, bon match à tous.
Juste petit prono.
Ciao, ciao,
ouais, un petit prono. Moi, je vois la France passer plus de 30 points à cette équipe argentine, avec une équipe argentine qui marquera, allez, dans les 12 voire 15 points.
Allez, ben voilà, du jeu en tout cas, ça, oui, ça promet sur Sud Radio. Voilà, ben vous ne pouvez que rester avec nous, hein, tout de suite.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Sport, le MAG, François Triot.
Et un mag complètement consacré à cet avant-match pour France-Argentine, le premier des tests de novembre, le premier de la Coupe d'automne des Nations. Voilà, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio si vous nous rejoignez. Les Français sont bien à l'échauffement, Alexandre Priam et Daniel Herrero.
Tout à fait. Ouais, effectivement, ils sont à l'échauffement, les tricolores. On a vu les trois quarts tout à l'heure faire un petit peu de mouvement, travailler l'idée de garder le ballon en haut, hein, quand on se fait plaquer, de ne pas passer tout de suite au sol, essayer de résister avant de passer au sol pour aller chercher du soutien offensif. En tout cas, c'est ce qu'on travaille chez les trois quarts. Et puis les avants viennent de rentrer. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'applaudissements quand même dans ce Stade de France. Ces avants qui ont été chaleureusement accueillis, et ceux qui ont le chasuble orange sont remplaçants aujourd'hui. Et on travaille tout simplement des petites passes là, main-main quasiment, hein, c'est ça l'idée, pour travailler un petit peu la gestuelle, réveiller les bras, et on voit pour l'instant aucun ballon qui tombe, c'est bon signe. Entre Karim Ghezal et William Servat, ce sont eux qui lancent les passes aux extrémités, François.
Ouais, et bien voilà, vous êtes au Stade de France comme si vous y étiez, en étant sur Sud Radio bien sûr, et on
peut même vous montrer le terrain.
Ah ben oui, bien sûr, ça c'est en allant sur sudradio.fr et au Stade de France, pas très loin de vous, mon cher Alexandre, il y a un ancien joueur de Biarritz et de Perpignan, mais qui est argentin, qui s'appelle Federico Martín Aramburu, et qui est avec nous. Bonsoir Federico.
Bonsoir François, comment ça va ?
Ça va, au Stade de France donc, pour soutenir les Pumas.
Eh bien oui, avec quelques anciens, avec quelques invités.
Bon.
Et puis à côté avec Lisandro Rizzo, avec Gonzalo, alors c'est toujours bien de revenir ici, y être dans la tribune pour voir un joli match, François, c'est bien.
Bon, alors, comment vous voyez vos Argentins, vous, ce soir ? Parce que c'est vrai que nous, on ne regarde que les résultats, notamment du Rugby Championship, mais est-ce que vous pensez à possible l'exploit des Pumas ce soir au Stade de France ?
Alors, c'est vrai que, bon, vous connaissez, surtout toi, François, tu connais bien les Argentins, je pense que ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Bon, nous, un peu les anciens, qu'on a toujours la chance de discuter avec les entraîneurs, avec les joueurs. Et là, aujourd'hui, nous, comme anciens joueurs, on est fiers, on est contents, on sait qu'ils vont se donner à 110%. Ça va être un match avec une intensité folle. L'Argentine a besoin de se retrouver, de faire un match un peu référence. Et voilà, on espère que ça sera le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, sûr et certain qu'il va y avoir au moins en première mi-temps une intensité de haut niveau.
Le but pour l'Argentine ce soir, c'est quoi ? C'est d'enrayer un peu la triplette Dupont-Jalibert-Ntamack ?
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de France a une super équipe, très complète, qui arrive à dynamiser les valeurs, avec un entraîneur que nous, on connaît très très bien aussi, parce que Fabien Galtier nous a entraîné, alors sa capacité de pouvoir analyser à la fois les erreurs des autres. Alors, forcément, il va falloir essayer de rester très concentré, surtout en défense. Je pense que les Argentins vont essayer de bloquer le dynamisme de l'équipe de France et pas laisser à Dupont, pas laisser aux trois quarts, déjà aux avants et après aux trois quarts de jouer beaucoup trop avec le ballon, parce que sinon ça peut aller très vite aussi.
Les deux dernières années ont été difficiles pour le rugby argentin. Il y a eu la pandémie, il y a eu des affaires, entre guillemets. Voilà, c'est important ce match aussi pour redonner une dynamique au rugby argentin.
Oui, non, mais ça c'est sûr, François. C'est le monde entier a souffert énormément. Même là j'étais à l'entrée, j'étais avec des copains qui sont venus depuis l'Argentine, et je crois qu'ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils n'avaient pas les vaccins. On vit des moments très compliqués, des adaptés, tout ça. Bon, les Argentins, c'est plus difficile parce que c'est un pays qui reste un pays qui manque beaucoup de développement, un pays pauvre, on va dire, dans lequel il faut faire beaucoup d'efforts. Avoir une franchise, c'est très compliqué. On n'a pas pu les tenir parce qu'aujourd'hui, les Jaguares, ils n'existent plus. Aujourd'hui, c'est les Argentins, ils ont eu leur chance en Europe. Aujourd'hui, eux, ils montrent qu'ils sont leur niveau, comme nous, on faisait à l'époque, un peu comme avant. Bon, essayer de se retrouver un peu, de trouver un match clé, un match référence, c'est peut-être aujourd'hui pour retrouver un chemin qui est le chemin de rugby argentin pour se retrouver, pour que tout le monde aille dans le même sens et continuer à construire ce qu'on avait construit à l'époque, sans se prendre la tête et sortir de cette étape un peu compliquée pour tout le monde.
Oui, l'Argentine ce soir, donc Federico Martín Aramburu, merci d'avoir été avec nous. Un petit prono peut-être juste avant de nous quitter sur Sud Radio.
21-22 pour l'Argentine.
21-22, eh ben on va vivre ça et bon, on espère que vous aurez tort, hein, sincèrement. Voilà, amicalement.
Écoute, on verra.
Allez, abrazo, à bientôt. En tout cas, merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Alexandre Priam, qui n'est pas très loin des Argentins, des anciens Argentins qui sont là.
Il en a cité, je suis pas en loge, hein, quand même. Hein.
Et il en a cité des noms. Hein, Federico Martín Aramburu, oui. Il y avait Gonzalo Quesada, il y avait Lisandro Arbisu. Bref, des joueurs qu'on connaît bien.
Ah, mais, il doit y avoir une belle ambiance là-dedans. Là.
Mais bon, voilà, on a compris aussi que ce rugby argentin, il avait besoin un peu de se refaire. Et d'essayer de faire quelque chose. On se rappelle quand même que l'an dernier, ils ont battu les Blacks. Ils ont battu aussi, depuis la Coupe du Monde, les Gallois. Bref, il y a quand même quelques belles performances au tableau de chasse des Argentins. Où en est-on du côté de l'échauffement à Saint-Denis, mon cher Alexandre ?
Ça y est, on s'est regroupé avant trois quarts du côté de l'équipe de France. Voilà, première. Alors on est sur du jeu courant, on va dire, côté équipe de France. Le ballon qui vit et tout de suite, on essaye de lancer des phases de jeu comme s'il y avait un ballon de turnover. Alors que du côté argentin, on est sur des phases arrêtées et on lance le jeu à partir de phases arrêtées. Quelque chose à vous signaler quand même. Peut-être que le ballon est glissant parce qu'on voit énormément de fautes de main côté bleu depuis le début de cette mise en place côté équipe de France, de cette petite opposition. Le ballon passe beaucoup de temps au sol, on se jette un peu sur le ballon pour essayer de le récupérer, ça donne un aspect un petit peu brouillon. Peut-être qu'il est un petit peu mouillé ce ballon, parce que c'est vrai que c'est humide ici au Stade de France. Il ne pleut pas, mais il y a une certaine humidité, hein, qui est d'ailleurs visible, hein, autour de la pelouse. Vous savez, on a mis des sortes de grandes plaques de plastique grise autour du terrain et il y reflète une sorte d'humidité dessus, donc il faudra peut-être surveiller cet aspect là mais pas mal de ballons tombés côté équipe de sur cette opposition et qui commence à gagner en intensité le jeu au pied d'ailleurs à l'instant de Jonathan Danty qui termine en touche et on voit, hein, William Servat qui donne de la voix pour essayer de monter en intensité l'échauffement de ce 15 de France.
Voilà, un 15 de France qui devra être pointilleux, hein, sur la discipline, sur la technique du coup, vu ces conditions, et puis aussi parce qu'il y a des nouvelles règles. On va d'ailleurs écouter Fabien Galthié, hein, qui a souhaité pousser au maximum ses joueurs dans le cadre légal. Voilà, on va l'écouter, c'était cette semaine à Marcoussis et c'est un certain Alexandre Priam qui a recueilli ses propos.
On cherche à comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, une fois qu'on aura intégré ça, donc la présence de Jérôme en permanence lors des entraînements, des skills, de l'analyse, nous permet de travailler en intégrant ce qu'on peut faire techniquement et ce qu'on doit éviter. Il faut améliorer cette phase du jeu qui est la compréhension de la présence de l'arbitre et de le respect de la règle, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et comment on peut vivre le match avec l'arbitre à nos côtés.
Voilà, effectivement, il faudra faire ça. Et pour ça, le staff peut compter sur Jérôme Garcès.
Et d'ailleurs, François, on a vu Jérôme Garcès extrêmement présent, hein, cette semaine à Marcoussis. Ne pas hésiter à parfois aussi à se monter un peu dur avec les joueurs, hein, après les coups de sifflet en disant « ça, c'est pas possible, je t'ai déjà sifflé là-dessus tout à l'heure, Intel, tu refais la même faute, c'est pas possible. Ça, c'est passible d'un carton jaune, attention. » Lever un petit peu la voix, voilà, pour essayer de mettre les joueurs dans le cadre. Et à noter aussi aussi pas mal de pénalités sifflées en mêlée hein, à l'entraînement. On a vu beaucoup pénaliser notamment Jean-Baptiste Gros notamment hein, face à Mohamed Awas. Je pense aussi que ça a facilité le choix de Mohamed Awas comme titulaire aujourd'hui, parce que ce soit hein, Jean-Baptiste Gros voire même Cyril Bah, ils ont eu du mal hein, quand ils ont affronté Mohamed Awas sur ces phases de jeu. Des problèmes de liaison d'ailleurs pour Jean-Baptiste Gros plusieurs fois à l'entraînement, mais globalement on va dire que le focus de Jérôme Garcès, François, c'est surtout sur le soutien offensif. On a vu énormément de coups de sifflet de la part de l'entraîneur international, l'ancien arbitre pardon, international, membre maintenant de la direction technique nationale de l'arbitrage, sur ces soutiens offensifs qui allaient un petit peu au-delà, qui perdaient leurs appuis. C'est une règle qui est maintenant, elle n'est pas nouvelle, mais elle est beaucoup plus sanctionnée, beaucoup plus surveillée, et cette règle du soutien offensif a été vraiment beaucoup sifflée par Jérôme Garcès lors des entraînements à haute intensité.
Avec Daniel Herrero bien sûr et Alexandre Priam, voilà, on va revenir quand même sur ce duo 10-12, l'association Jalibert-Ntamack, voilà, qui a fait beaucoup parler, on l'a entendu tout à l'heure, fait aussi peu poser question. On va d'ailleurs écouter Fabien Galthié, le sélectionneur, qui a expliqué ce choix cette semaine en conférence de presse avec Alexandre Priam.
On peut dire que ces deux joueurs depuis deux ans font partie des meilleurs joueurs de notre championnat. Ensuite, c'est vrai qu'il est arrivé que, assez souvent d'ailleurs, que Romain joue au centre avec le Stade Toulousain. Il a beaucoup d'expérience en tant que premier centre, 5-8e on va dire. Donc on va dire, essayons de mettre déjà les meilleurs joueurs sur le terrain, ils en font partie. Et c'est vrai qu'après la blessure d'Arthur Vincent, ligament croisé, le forfait de Virimi, bien sûr, ça a libéré des options. Et comme l'a dit Laurent, j'ai vu dans les interviews, il vous a déclaré qu'on y pensait depuis un moment. Et donc voilà, l'occasion se présente et nous avons travaillé avec une option, cette option-là, pour débuter le match.
Voilà l'option Ntamack Jalibert. On en a déjà parlé dans le mag il y a un petit moment, Daniel Herrero. Mais quand même, revenons quand même sur ces options. Voilà, on a bien compris que les circonstances avaient un petit peu accéléré peut-être le process. C'est bien, à deux ans de la Coupe du Monde, on comprend tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est vis-à-vis des nouvelles règles, notamment parce que ça avec cette fameuse règle là du 50-22, où on peut trouver une touche indirecte dans les 22 avec le lancer à venir. Voilà, ça multiplie les options de ce point de vue-là, hein, Daniel.
Oui, alors effectivement, si on regarde dans le talent de ces deux hommes, leur talent de pied, il est très élevé pour les deux. Les deux ont un jeu au pied remarquable. Et on sait que dans une construction de ligne de trois quarts, deux, c'est jamais de trop et c'est toujours presque un minima. Nous, pour l'instant, avec les ouvreurs, essentiellement Romain, des 18 derniers mois ou des 7-8 derniers matchs de l'équipe nationale, on avait un bon joueur de pied derrière, ou un très bon joueur de pied, essentiellement donc Romain Ntamack. Et après, nos deux centres, s'ils sont pas radicalement handicapés, ils sont pas très très bons. Vakatawa ne l'était pas, lui, il avait les pieds carrés, honnêtement, hein, plus cher après, les épaules rondes, mais bon, en d'autres termes, avec les pieds, c'était bien moyen. Et Gaël Flicou, il a un jeu au pied particulier. Lui, il a le petit rasant en bout de ligne
qui marche bien. Hein.
Qui marche bien. Il a travaillé depuis qu'il a 14 ans. Honnêtement, il le maîtrise. Après, non, mais c'est vrai. Après,
c'est l'école toulonnaise, ça.
Il me semble, il n'a jamais joué à Toulon quand même. Hein.
Chez les jeunes, mais jamais.
Les jeunes, ouais.
Mais
jamais. La Seine. Il est parti. La Seine. La Seine. Voilà. Voilà. C'est un enfant de la Seine. Il est aimé, adulé et adoré dans tout le département du Var, à Toulon et à la Seine en particulier. Enfin bon, au demeurant, Gaël, on peut pas dire que c'est un joueur de pied. C'est pas un joueur d'allonge. Enfin, joueur de stratégie, par rapport à la question de François qui est une nouvelle règle offre une lecture du jeu au pied profond, loin devant. Ça demande évidemment pour la défenseur une organisation particulière, puisqu'il y a une organisation qui va se mettre en place, en l'occurrence une charge ou une surcharge, ou tout au moins une augmentation de l'organisation défensive profonde. Hop, là, il faut un peu des mecs de pied. Pour l'instant, d'ailleurs, si on observe l'ensemble du tissu international et l'ensemble même de notre top 14, il y a peu. Il y a un ou deux par match.
Ouais, c'est vrai.
Il n'y en a pas beaucoup.
Deux par... Très peu, parce que c'est dur. C'est dur, c'est difficile. Et même
on voit les nations placer deux joueurs en troisième rideau. Du coup, on peut imaginer Jalibert. Est-ce qu'on fait Jaminet? Est-ce qu'on fait aussi tirer Jalibert vers ce troisième rideau pour couvrir à deux les deux grands côtés? C'est ce qu'on voit beaucoup.
Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire l'organisation défensive.
Oui. Sur les coups de pied,
Voilà, sur les coups de pied adverses. Pour l'instant, on disait. Nous avons avec voilà offensive. Incontestablement, ces deux joueurs-là ont la puissance de pied, la longe de pied, l'intelligence du pied. Ça, c'est remarquable. Le seul bémol, il est sur la responsabilité totale de l'ouvreur dans la gestion du jeu et je ne veux pas dire l'ombre du décisionnaire. Parce qu'après, sur le talent offensif, on est réjoui. Cette polyvalence est, à mon sens, très réjouissante. Elle offre, à mes yeux, personnellement, et je crois presque dans toutes les analyses que nous avons entendues, sauf le petit bémol de Pichot et Lorga tout à l'heure, qui est quand même, c'est une chance pour le 15 de France ou pour le rugby français d'avoir aujourd'hui ces deux joueurs-là sur le terrain. Voilà.
Et petite précision, alors que l'ambiance est clairement montée de volume, effectivement.
Ça pétarade. Hein.
Parce que là, c'est la composition des Bleus hein, dans ce Stade de France, bien garni quand même. On a vu une séquence très intéressante côté argentin, là, pendant 3 minutes, avec que des retours intérieurs au prêt. Systématiquement, on a vu Santiago Carreras, ouvreur aujourd'hui, faire des retours au prêt constamment. On a vu ça, mais sur au moins 5 ou 6 actions d'affilée. Matera le faire beaucoup aussi. Attention au Raderock.
Oui, alors il y a attention au Raderock, là où ils vont jouer probablement. On pourra dire, l'équipe d'Argentine, elle vient de prendre 6 tôles quand même dans les derniers matchs.
Donc
elle est pas rayonnante. Qui plus est, elle n'est pas rayonnante moralement. Mais elle a la sacralisation absolue du goût de l'équipe, de l'identité argentine. Donc ils vont être d'une extrême vaillance. Et sans doute autour de Mario Ledesma, qui est quand même vraiment pas quelqu'un, un perdreau de l'année en matière de gestion du jeu. Ils vont sans doute mettre un jeu à volume restreint, à périmètre restreint. Ouh, la densité physique, l'agressivité, la générosité du combat va être dominante. Ils vont peut-être jouer essentiellement dans cette zone-là et en même temps, sur le plan défensif, ils vont faire en sorte que les Français n'aillent pas trop vers les extérieurs où là, il y a le fuego. Il peut y avoir du feu et ils vont sans doute mettre des rush défense, des défenses inversées, des montées rapides sur les extrémités pour amener quasiment le 15 de France à jouer plutôt dans l'entonnoir près des avants.
Oh, cet entonnoir, effectivement, on verra, mais c'est vrai que ça va donner du boulot à notre troisième ligne, notamment.
Ah oui, absolument. Gelon,
Woki. On ne vous a pas trop, d'ailleurs, Daniel, entendu sur ce sujet-là. Elle est complémentaire, cette troisième ligne, entre Cross, un peu l'homme à tout faire, Woki, l'homme des grands airs, et... Bon, en tout cas aérien, hein, pas grands airs, c'est pas péjoratif.
Ouais, pas joueur
au thé. Et Gelon, placé en numéro 8, préféré à Aldrit, on va dire peut-être au bénéfice de sa forme, son état de forme en début de saison. Mais c'est vrai qu'elle a fière allure, cette troisième ligne. Hein.
Ah oui, François, honnêtement, elle a très fière allure. Pour moi, elle est belle, pour ne pas dire superbe. Et si j'analyse un peu le monde contemporain, aujourd'hui on a vu les Blacks, dans les temps récents on a vu les Box. Enfin, si on regarde ça, oh là là, cette troisième ligne là, elle est magnifique, honnêtement, elle est magnifique. Parce que ceux-là aussi, ils ont le grand volume de déplacement. Ce sont vraiment trois très très beaux coureurs. Les trois sont de très très bons défenseurs avec des morphologies particulières. Il y a le petit bémol, Aldrit le percutant et Gelon en l'occurrence plutôt le bon au défi physique mais pas authentiquement un perforant destructeur de défense à l'ancienne. Mais en termes de potentialité, c'est-à-dire ce qu'ils vont, ils peuvent faire, ces trois joueurs là sont remarquables. Et évidemment ils sont bons les trois en l'air. Alors sûrement que Cameron il est un peu meilleur que Croix, mais quand même Croix il sort hein, au Stade de Toulousain, il sort, c'est le troisième, quatrième. Voilà, on sait qu'Anthony Jolange, il fait 1m95, c'est pas. Il saute. Hein. Après cela, ils vont aux quatre coins du terrain, ils y vont vite, ils ont des mains. Et alors en plus, les trois sont d'exceptionnels défenseurs. Ça donne un bonheur en perspective.
Hein. Et Daniel se décore là.
Ah ouais, ça promet.
Et ça promet. Et ce décor. Retrouver du public.
On va y revenir dans un instant, mais là on a une petite contrainte. On revient parce que voilà, faire une petite pause et le coup d'envoi dans 10 minutes sur Sud Radio.